ça vous change, hein, monsieur Boulaire.
Ah oui.
Mais on vous voit mal, Marc et Christine, dans une piscine comme Jean-Edouard et Loana, j'imagine.
Nous avons déjà partagé une piscine.
Mais tout à fait.
C'est pas vrai.
Mais absolument.
Bah, pour ça alors.
Et j'espère que nous recommencerons.
Mais tout à fait.
Alors, est-ce que vous êtes allés dans une piscine ensemble?
Eh ben, au mois d'août, en vacances.
Ça alors.
Ah, vous partez en vacances ensemble?
On s'y trouve, on s'y retrouve.
Vous vous connaissiez?
Non mais c'est une info, nous partageons une piscine, Christine
O'Krent. Et je suis sûr que Christine O'Krent nage très très bien.
Remarquablement.
Ah bah elle fend la mer, Christine.
Absolument.
Ah c'est Moïse. On la surnomme Moïse. Oui.
Non mais c'est vrai, c'est une sirène.
Super cible.
Dans l'eau, je suis sûr que...
Oh mais ben c'est vrai. Ça y est, alors Ariel est partie de ton cœur.
Non mais je pense que Christine...
Oh c'est pas le même genre.
Ah oui. Christine, elle est plutôt athlétique, elle a de l'énergie, et puis je pense vraiment que c'est une sirène dans l'eau.
Bon, passons à Caroline Diamant maintenant.
Ben ça empêche pas d'être à l'aise dans l'eau quand on a quelques kilos en trop. Ah. Regarde les phoques. Non mais je dis pas ça pour Caroline, je dis ça aussi pour moi.
Monsieur Lambron, vous êtes d'accord pour côtoyer Stevie Boulet dans les grosses têtes?
Oui, s'il y a une piscine, volontiers.
Et évidemment que des citations pour vous démarquer et vous départager les uns des autres. Une première citation pour Flore Domanitsky, qui habite le Gros du Roi, c'est dans le Gard, qui a dit « Si quelqu'un ne voit pas le rapport entre Aragon et Henri III, qu'il nous écrive, il a gagné un bilboquet. »
Bon, je vais écrire.
Un historien.
Est-ce que c'est un
Pierre Desproges?
Eh oui, c'est Pierre Desproges, ah, évidemment. Voilà. C'est signé Pierre Desproges. Bravo, Philippe Manœuvre. Une citation pour Julien Rouleau, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique, qui a dit « À Hollywood, un mariage réussi, c'est quand les époux sortent ensemble de l'église. »
Polanski?
Non.
Oh, Coluche?
Non. Non,
c'est une femme,
c'est
à mon avis.
C'est un homme qui a
c'est
dit
un homme.
Ça.
Américain.
Un Américain.
Bob Hope.
Humoriste, Bob Hope.
Alors, humoriste, non, mais avec de l'esprit.
Woody Allen. Woody Allen.
C'est David Kilt. Letterman.
Pardon?
David Letterman.
Ah non, 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 c'est quelqu'un qui est mort en 1984.
Groucho Marx.
Groucho Marx, non.
Un Peter Ustinov.
Je vous ai dit, pas un humoriste. Et qui avait de l'esprit, pas Peter Ustinov.
Est-ce qu'il était acteur?
David Niven.
Acteur, non.
Ah. Réalisateur.
Je répète la question. À Hollywood, un mariage réussi, c'est quand les époux sortent ensemble de l'église.
Billy Wilder.
Billy Wilder, non.
Ah, est-ce que c'est pas le mec qui a écrit Breakfast at Tiffany's?
Exact.
Truman Capote.
Truman Capote.
Truman Capote, ouais, bonne réponse de Marc Lambron.
Caroline,
Marc, est-ce que vous m'accordez cette réponse?
Absolument.
Est-ce que vous me redonnez?
Nous partageons la piscine, enfin.
Non, bah vous partagez surtout la capote. Mais c'était bien Truman Capote. Bravo. Alors, c'était évident, c'était signé.
Mais oui. Donc, voilà, vous avez raison.
Il commentait tout ce qui se passait à Hollywood, vous voyez. Une citation plus compliquée, peut-être pour Bernard Attias, qui habite Brance dans le Jura. Qui a écrit « Quand on te voit, il vient à main, une envie dedans les mains, de te tâter, de te tenir, mais il faut bien se contenir d'en approcher bon gré ma vie ». Car il viendrait une autre envie.
Est-ce que c'est Ronsard?
Ronsard, non.
Hugo.
Du Bellay, non.
Est-ce Arago, que c'est un très très grand poète?
Renaissance.
Alors il s'agit effectivement d'un poète.
Bon, je tente Baudelaire.
Clément Marot. Clément Marot.
Clément Marot, bonne réponse de Marc Lambron. Clément Marot. Ah non, mais ça sert à un académicien, quand même. Encore une citation.
Enfin, en même temps, si ça sert qu'à ça, donner des réponses comme ça, ça doit être sympa dans les dîners. Si on lui pose pas de questions, ça veut dire qu'il sait pas parler.
C'est vrai que dans une piscine, Clément Marot, c'est moins intéressant. Une autre citation pour Benjamin Potel, qui habite Neuville-du-Poitou, c'est dans la Vienne, qui a dit « Presque tous les hommes ressemblent à ces grands palais déserts dont le propriétaire n'habite que quelques pièces et il ne pénètre jamais dans les ailes condamnées. »
Ah, oh, c'est beau.
Français.
Ah, c'est beau, hein.
Ça sent le vécu, non?
Ah, c'est français, oui.
C'est féminin ou c'est une femme qui a dit ça ou...
C'est un homme qui fut académicien français, d'ailleurs, au fauteuil numéro 22.
Alors, Marc, 22.
22, voilà les flics.
C'est un flic.
Et prix Nobel de littérature, en plus.
François Mauriac.
François Mauriac, bonne réponse de Marc Lambron. 22. À une question pour Frédéric Bonnier qui habite Nantes. Le roi Charles VIII, je ne sais pas si ça vous dit
bien
quelque
sûr.
Chose.
Oui. Ah, oui. J'ai même pas vu le 7.
Il a succédé à qui, Charles VIII, tiens, pour voir un petit...
À Charlemagne.
Non.
Ah,
non.
Charles Quint.
Non, il a succédé à Louis XI.
Et oui, le petit qui mettait des cages.
Alors,
oui.
Exactement. Il y a eu Louis XI, Charles VIII, et après, on est passé à Louis XII. En fait, il était entre deux Louis, Charles VIII. Oui. On l'appelait l'affable, Charles VIII. Mais... Il a été roi, il faut quand même le dire, pendant 14 ans, de 1483
comme Mitterrand.
À 1498, au 15e siècle. Oui, vous pourrez vous rappeler, à peu près comme Mitterrand, vous avez raison, Charles VIII et Mitterrand, deux mandats, deux septennats, 14 ans. Mais quelle était la particularité physique de Charles VIII ?
C'était pas un géant ?
Non.
Il en avait deux.
Il était nain.
Nain, non.
Il était borgne.
Borgne, non.
Et il chantait « Born to be alive ».
Non.
Ça se voyait tout de suite.
Pardon, Bernard.
Ça se voyait tout de suite.
Vous, Bernard, vous l'auriez vu tout de suite.
Il était anorexique.
Attends, pourquoi moi je l'aurais
pourquoi
vu
Pourquoi vous lui dites vous? Ça veut dire que tout le monde ne voyait pas.
Parce que normalement, Bernard devrait donner la bonne réponse.
Il était...
Bossu.
Bossu, Bernard n'est pas
il
bossu.
Était, il était énorme. Énorme.
Énorme, ça va.
Il aurait pu l'appeler Charles le Gros, par exemple.
D'abord, il est devenu roi à l'âge de 13 ans. Alors, vous voyez, il n'était pas énorme à 13 ans.
Ah bah, il y en a, si.
À 20 ans, 21 ans, il s'est marié avec Anne de Bretagne. C'est ainsi qu'il y a eu l'union du duché de Bretagne au royaume de France.
Ah, mais il était pris à pic.
Ah non, il n'était pas pris à pic.
C'était une particularité physique.
Physique.
Il était con comme une pine.
Au point d'ailleurs qu'à cause de lui, il y a une mode qui a été lancée.
Ah, on l'appelait Charles le Beau.
Ah, il avait un goitre et c'est la mode des frères.
Ah non, arrête. Il avait un gros cul.
Ah non, mais Bernard, vous n'avez pas, vous, cette particularité physique.
Ah bon ?
C'est simplement une particularité physique, je sais, à laquelle vous êtes sensible.
Ah, il avait des gros seins.
Non.
Il avait des grosses couilles.
Il avait des cheveux. Il avait des très beaux cheveux. Et ça a donné lieu à un vêtement.
Je pensais vous sauver, c'est encore pire, Bernard.
Ah non, il avait
une coquetterie dans le regard.
Non.
Donc ça a donné lieu à un vêtement.
Pour Monsieur Bonnier de Nantes. Écoutez, je ne veux pas vous aider plus parce que ce serait lui faire perdre 300 euros, mais j'étais pourtant persuadé que la réponse allait fuser.
Est-ce qu'on a inventé un vêtement ? Est-ce que là, jusque-là, les hommes portaient des culottes toutes simples ?
Pas des culottes, mais on a inventé effectivement.
La braguette, on a inventé.
Parce qu'il était, était incontinent.
Non. La chaise percée.
Je suis pas porté sur les braguettes et les chaises percées. Enfin, c'est quoi ça?
Il avait des accidents de chiasse.
Mais il nous donne des indices qui servent à rien. Il était bossu, on l'a dit peut-être, non?
Il était incontinent.
Il avait le slip kangourou.
Est-ce que c'est là qu'on a inventé les pantalons pour hommes?
Non.
Qu'on n'a pas besoin d'enlever pour faire pipi.
Rien à voir.
Ah non, c'est des choses.
Ah, les couches.
Il avait un problème de pied. Oui. Il avait un pied beau.
Alors, il n'avait pas un pied beau.
Il avait deux pieds gauches.
Non, mais écoutez, Bernard, tout.
Mais attends, mais quel
rapport ? Il avait six orteils à chaque pied.
Voilà. Bonne réponse de Valérie Mérès.
Ah oui.
Alors on te le sert sur un plateau d'argent.
Alors quand c'est Marion Cotillard, vous dites qu'elle a six doigts.
Oui.
Et quand c'est Charles VIII, qu'il y en a vraiment six.
On l'a surnommé bec de canard, patte d'ours ou même gueule de vache.
Oh là,
qui Bernard?
Quel rapport avec six orteils?
Ah bah oui, une vache, voyez.
Une vache à six orteils?
J'en sais rien, moi.
Elle a des sabots, les vaches.
Et pour son confort, il portait des chaussures très très larges.
Ah, oui, on se doute.
Ce qui fut immédiatement copié par ses courtisans.
Ah oui. C'était des chaussures avec des crevés dessus.
Et
ça.
Oui, pour plaire au roi, tout le monde portait les mêmes chaussures que le roi, alors que les autres, évidemment, ils nageaient dedans. Hey. Lui, il avait six.
Tout le monde se cassait la gueule dans les couleurs du château, mais ça te faisait marrer, t'es content, là, tu vois.
Dis donc, il aurait eu deux bites, les mecs, en étant kikinés, quand même.
Mais les femmes auraient été heureuses.
C'est
bien mal connaître les femmes.
Ouais.
Ah bah déjà, six doigts, c'est pas mal, six doigts de pied.
Oui. Vous faites quoi avec vos doigts de pied?
T'as jamais baisé aux îles Panaries?
Ça me dégoûte.
Non, mais c'était une mode, évidemment, incroyable.
Six orteils, c'était une mode.
D'avoir des chaussures sans talons, en plus. Hein, parce qu'à l'époque, il y avait des chaussures avec talons. Et là, d'un seul coup, évidemment, on a enlevé les talons. Parce que c'est pas, évidemment, très pratique non plus.
Ça, des gens sans talons, on en connaît.
Six orteils, on devrait être encore plus stable. On devient bien tenir sur le... Vous m'auriez dit qu'il en avait que trois. je vous dirais, c'est un peu fin.
Mais le fait d'en avoir.
J'ai l'impression que je suis en train de causer avec une vendeuse chez André. J'ai l'impression que je vais repartir avec un petit ballon. Quand on était enfant, chez le magasin de chaussures, ils font toujours ça, c'est fini cette époque.
Non, non, c'est fini.
Ah, c'est une belle époque.
Pour les petites, certainement pour les magasins de qui sont spécialisés que dans les chaussures d'enfants, il y a toujours un petit cadeau.
Ah oui?
Je sais pas si ça existe encore, André d'ailleurs.
Pardon?
André, ça existe.
Chausseur André existe. Mais
bien
toujours.
Sûr que ça existe toujours, André.
Pas, mais je ne sais pas.
Mais enfin, oui. Enfin.
Et avec ça, il vous fallait du cirage. Ta gueule, ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule, connasse. Tu as vendu des pompes de merde déjà.
D'ailleurs, c'est toujours comme ça, même quand vous allez maintenant chez comment s'appellent les magasins. Faut acheter alors, je ne sais combien. Faut customiser.
Ah bah oui, j'ai acheté des mocassins, ils voulaient me vendre des glands. Je dis, mais j'ai ce qu'il faut. Vraiment des cons, hein, vraiment des cons.
Vraiment, on regrette le bon temps de Charles VIII. Un auditeur qui vous a envoyé des poèmes d'amour. Vous pouvez lire ce qu'il a écrit dans sa lettre.
C'est Pascal qui habite à Reims, qui est auditeur des Grosses Têtes depuis la première émission.
C'est vous dire.
Il nous écoute avec bonheur, etc. Je vous ai entendu lors d'une émission dire que vous aimiez beaucoup que l'on vous écrive des poèmes, ce qui est vrai. Je me suis donc permis très modestement de vous en écrire quelques-uns.
Une centaine.
Il y en a...
Une centaine.
Ouais. Des poèmes qui vous sont dédicacés.
Tout à me
dédier.
Oui, c'est ça.
C'est beau.
En plus, il est plein d'humilité. Il dit... Je ne suis pas Rimbaud, Verlaine ou Victor Hugo. Certainement, mes vers ne sont pas les plus beaux, mais je les ai écrits à l'encre de mon cœur. Vous écrire des poèmes est un très grand bonheur.
C'est beau.
D'une main, il a écrit ça en plus.
Oui. Avec l'encre de son cœur.
J'ai eu peur.
Alors, j'ai distribué les poèmes de Pascal à nos amis grosses têtes. Jean-Philippe, vous pouvez en
beaucoup,
lire un pour voir.
Il y en a au moins 25.
Écoutez, bien. 30. Le poème s'appelle « Voyage au pays de Karine ». Dans le fond de vos yeux, j'ai posé mes bagages pour finir en beauté le plus beau des voyages. Sur votre peau de miel, j'ai donné 1000 baisers sucrés, ivres de pureté. Mais le lieu où mon cœur s'est alors emballé, c'est votre visage d'ange à la fleur d'oranger. Que de beauté en vous, ma florale Karine, de la pureté du lys à la tendre églantine. Qui ouvre en secret.
Ne t'énerve pas, Jean-Philippe.
Attendez, voilà, vous pouvez reprendre, vous, avec le vôtre de poème.
La rose de mon cœur a éclos ce matin, faisant fuir à jamais tous mes anciens chagrins. C'est un dieu à l'aurore qui fit naître ma rose, et de la regarder, c'est à peine si j'ose.
Une faute de français colossal.
Il y a des moments où elle est femme fleur quand je viens m'endormir dans sa fraîche corolle pour passer une nuit de calme et de douceur.
Ah ouais, c'est Sacha qui lui met sa bite. J'ai compris la poésie, c'est Sacha qui lui met sa bite.
Et Sacha qui dit que c'est une corolle.
Oh non, c'est tellement beau ce qu'il écrit quand même, attendez.
Chaque jour, j'écrirai un poème d'amour, je le déposerai sur votre peau de velours. Il dira les mystères que recèle mon cœur, viendra vous consoler et combattre vos peurs.
C'est beau,
vos larmes de pluie, il viendra les sécher.
À quel moment il éjacule
Et votre cœur brisé viendra le recoller. Il sera doux et tendre, ce petit trois fois rien. Il sera doux et tendre comme un petit câlin. Poil au sein.
Non, pas poil au sein. C'est beau.
Monsieur Baffi, je vous en ai donné un aussi, monsieur Baffi.
Karine. J'aime ton cul. Ta foune et tes nichons.
Ça, c'est pas le même style.
Mais pardon pour le reste, car ta gueule est bidon.
Voilà comment
je vous embrasse très fort, Pascal.
Une question
ça
pour
me touche
monsieur
beaucoup.
André Jacques qui habite Nantes en Loire-Atlantique.
C'est dans les. Pas fini, Laurent.
Pardon, Laurent.
Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand je vois ton cul, je suis très déçu.
Là, c'est fini, là.
C'est fini.
Je peux poser ma question. Non, parce que les grosses têtes, c'est avant tout une émission culturelle, je le rappelle.
Grâce aux auditeurs plutôt qu'aux sociétaires, apparemment.
Alors, on nous
apprend... dernière, ton cul me rend fou.
On nous apprend dans
ton
les...
visage me rend mou.
On nous apprend dans l'Express.
Et c'est... pour conclure.
Ah ben c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il dit, lui?
Moi, je vous écoute, Laurent. Allez-y, posez votre question.
C'est bien, mon petit Stéphane. Vous écoutez les questions. Vous n'avez pas les réponses, mais vous écoutez les questions.
Un peu de trop,
on nous
ça.
Dit dans l'Express que parfois, à ces conférences, on pouvait voir deux femmes côte à côte
côte à côte qu'il écoutait sa femme et sa maîtresse, Françoise et Malcy. De qui s'agit-il ?
François Hollande ?
Non.
En quelle année ?
Or, ces dernières années, c'est dans l'Express qu'on nous raconte ça cette semaine.
Donc la femme et la maîtresse, c'est Bocuse ?
Bocuse, non.
Mitterrand ?
Mitterrand, non.
Est-ce que c'est un homme politique ?
Un homme politique, non.
Un artiste ?
Un artiste, alors... Un artiste.
Un intello.
Un intellectuel. Enfin, un intellectuel.
Un auteur.
Un auteur.
Mort.
Écrivain.
Mort.
Mort.
Jean d'Ormesson.
Non. Jean d'Ormesson. Ben... Bonne réponse de Karine Le Marchand. Jean d'Ormesson. Il y a une biographie qui vient de sortir qui s'appelle Le Dernier Roi Soleil. C'est signé Sophie Desdéserts. La vraie vie de Jean d'Ormesson, publié chez Fayard. Ça va intéresser beaucoup de gens. La question va porter sur Philippa de Hainaut, qui en 1347 épargna qui donc ? C'est ma question.
Est-ce qu'elle a épargné une autre femme ?
Elle n'a pas épargné une autre femme.
Un
quelle date,
Philippa de Hainaut en 1347 épargna qui donc ?
Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un, cette Philippa, est-ce qu'on la connaît sous un autre nom ?
C'est la femme de quelqu'un, Philippa de Hainaut.
Donc elle a essayé de tuer son mari ?
Pas du tout.
Godefroy de Bouillon ?
Non plus.
Attendez, Charlemagne, c'est 1515. Là, on est en quoi ?
Non, c'est Marignan.
Oh là là.
Elle a pris des cours d'histoire chez Christine, bravo.
Ah oui, non mais là on est en 1347, je vous défie de dire quel était notre roi régnant.
C'est Clovis, non ?
Alors non.
En 1347.
On est en 1347.
Louis XI.
Et Philippa de Hainaut épargne la vie, vous avez bien compris qu'il s'agit donc pas d'épargner de l'argent.
C'est la femme d'un roi ?
C'est la femme d'un roi.
D'accord.
Et c'est pas la vie de son mari qu'elle a épargné.
Pas du tout.
Est-ce que c'est possible que ce soit la vie d'un enfant ?
Non plus.
C'est pas la femme de Philippe le Bon ?
Non.
Ça devait être un ennemi.
Un ennemi de son mari.
Exactement.
Un ennemi du roi.
Quelqu'un qui était condamné à mort et qu'elle a sauvé.
Oui, plusieurs personnes même qu'elle a épargné.
Un groupe de
paysans.
Des protestants ?
Des protestants, non.
Des touristes ?
Des touristes, non.
Jacques le Croquant ?
Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui ?
Je ne sais pas.
Attendez. Si on trouve le roi, ça va nous aider.
Je suis pas sûr.
Même pas.
Attendez, des paysans.
Je peux vous dire le roi, si vous voulez.
Ah oui. Oui.
Philippa de Hainaut, c'est l'épouse d'Édouard III.
Édouard III, ça vous aide.
Hein.
Non, vous avez raison, ça n'aide pas.
Ça a à voir avec la religion.
Il est anglais.
Avec la religion.
Ça se passe en France.
Il est anglais, Édouard III. Ouais, bravo.
Est-ce que ce sont des envahisseurs ?
Pas du tout.
Les Beatles.
Les Beatles. Qu'est-ce que Édouard III va épargner les Beatles ? C'est donc, vous avez compris, la femme d'Édouard III, oui. Madame Philippa de Hainaut, qui demande à son mari d'épargner...
Des Romains.
Des Romains, non.
Les Écossais.
Non plus.
Les joueurs de cornemuse.
Non plus.
Les Anglais.
Des Vikings.
Non.
Des morts.
Ah, si vous réfléchissiez un peu.
Attends.
Des Polynésiens.
Des Polynésiens, non.
On essaye de se raccorder à l'actualité.
Des Hollandais.
Des Hollandais, non.
Non, on était en pleine...
Des Irlandais.
Non plus.
On était en pleine guerre de religion à l'époque.
Oui. Pas vraiment.
Pas encore.
C'était plutôt des conquêtes de territoire.
Et ça a à voir à ça, aux conquêtes de territoire.
Est-ce que c'est genre un duc, genre le duc de Guise ou
pas
un truc comme ça ou...
Les corbeaux de la Tour de Londres.
Non plus.
Ça n'a pas à voir avec la religion.
Ça ne se passe pas en Angleterre, pour tout vous dire.
Des artistes.
Édouard III, il régnait où ?
Il régnait en Angleterre. Mais là,
ça se passe pas en Angleterre.
Ça se passe pas en Angleterre.
Alors,
les bourgeois de Calais.
Les bourgeois de Calais.
Ah, oui.
Bonne réponse de Philippe Gueluc. Les bourgeois de Calais. Eh oui, évidemment, vous connaissez l'histoire, vous pouvez la raconter, Philippe.
C'est surtout la fin, lorsqu'ils viennent. Ils viennent avec la corde au cou, donner les clés de la ville.
Exactement.
Voilà. Et ils ont été sculptés par Rodin.
On voit toujours cette sculpture. Voilà. D'ailleurs, les fameux bourgeois de Calais, c'est pendant la guerre de Cent Ans, cette histoire du siège de Calais. Et en 1346-1347... Édouard III met le siège devant la ville et ce siège dure évidemment des mois et des mois, énervé par la longue résistance des habitants de Calais. Quand vraiment la cité est affamée, il accepte que 6 bourgeois lui soient livrés afin d'être exécutés. C'est à ce prix qu'il laissera la vie aux habitants. Toutefois, son épouse, au final, Madame Philippa de Hainaut, parvient à persuader Édouard III d'épargner aussi la vie des 6 malheureux désespérés venus devant le souverain en chemise, la corde au cou, les clés de la ville et du château en main. Un geste d'amour chrétien d'Édouard vis-à-vis de sa femme Et c'est donc grâce à Philippa de Hainaut que Stache de Saint-Pierre, Jacques et Pierre de Vissant, Jean de Fienne, Embrieux d'Andre et Jean d'Aire, les fameux bourgeois de Calais, sont épargnés.
Eh bien, on lui envoie un baiser à cette Philippa. En fait, vous nous racontez cette histoire de Calais, parce que Calais est très dans l'actualité. Mais je défie quiconque de se souvenir de cette histoire de Philippa. Et c'est très bien qu'on reparte pour comprendre un peu l'histoire.
Elle se rend compte elle-même qu'elle est en train de s'en passer.
En ce moment, mesdames et messieurs, vous voyez.
Elle a un côté.
Ariel va aller à Calais cet après-midi, je pense.
Ariel, le casaque blanche, le truc, essaye de terminer le parcours avec dignité.
C'est exactement ça. Elle a un côté Léon Vitro.
Et là, je suis en train de dire une connerie, mais je vais finir quand même ma phrase pour quand même que je sauve.
Non, mais Philippa de Hainaut, tu connaissais ?
Pas du tout.
Ce que j'aime chez Ariel Dombal, c'est qu'elle sait quand même qu'elle est telle. Bon, la paye un tout petit peu pour faire cette émission. Elle se dit, je vais mériter mon salaire.
Voilà.
J'ai rien à dire, mais je vais le dire quand
voilà,
même.
1346, je vais me souvenir de Philippa. Voilà, c'est déjà ça.
On ne voit pas le bout du tunnel. Hein.
En 1797, hein, ça remonte,
alors,
hein,
attendez,
on est fin 18e. Hein, 1797, à Londres, Joseph Brahma invente quelque chose d'ailleurs que vous pouvez désormais avoir chez vous, ce qui n'était pas le cas avant. Mais quoi donc ?
C'est pas un copain de Alphonse Chiva, Joseph Brahma, non.
Non, Joseph Brahma, il a inventé beaucoup de choses. Il a inventé la serrure à pompe, la chasse d'eau, il a inventé la numérotation des billets de banque. Autant vous dire, c'était un inventeur, un mécanicien. Ouais. Mais il a aussi inventé en 1797 quelque chose qui marche toujours à donf, et d'ailleurs qui va marcher particulièrement beaucoup aujourd'hui.
Le Wi-Fi. Ah,
le Wi-Fi, non.
Le détecteur de fumée ?
Non.
Est-ce que c'est mécanique ?
Quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, aujourd'hui.
Aujourd'hui, mais...
Le 17 mars.
Oui.
17 mars.
17 mars.
C'est la journée de la quoi ?
C'est la journée de la rien du tout.
Ah, bah dis donc, il y a beaucoup de gens qui vont la fêter.
Il a inventé le jour férié, non ?
Le jour férié, non.
Non. Et est-ce que c'est mécanique ce qu'il a inventé ?
Ah oui, 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 tout à fait.
C'est un instrument ?
Ah, c'est un instrument, pas de musique en tout cas.
C'est un objet.
Un objet, oui.
La crécelle.
La crécelle, non.
On peut mesurer quelque chose avec ?
Ah, on mesure rien du tout.
Et c'est important aujourd'hui pour les grosses têtes ou pour la France en général ?
Ah, pour l'Europe même.
C'est lié aux manifs ?
Aux manifestations, non.
Est-ce que c'est lié...
C'est non. Lié au fuseau horaire ?
Pas du tout. Je vous ai dit que c'était lié à cette journée. Franchement, je vous aide énormément en vous disant ça tout de même.
Est-ce que c'est, est-ce que c'est lié à cette journée en tant que jeudi ou en tant que 17 mars ?
Ni l'un ni l'autre. Un peu plus le 17 mars tout de même.
D'accord. Ah, ok. C'est lui qui a décidé que les saisons commenceraient. Genre, tel jour...
Non, je vous dis que c'est une invention mécanique. Alors, il n'a rien décidé.
Le tuyau d'arrosage.
Ah, voilà.
Ah, oui.
Ça, c'est vrai que c'est la journée du tuyau d'arrosage.
Mais non, mais...
Moi, j'ai acheté un jardin spécialement.
On entre dans la saison des chaleurs.
Mais bien sûr. Il faut en avoir déroulé du câble.
Déroulé du tuyau, oui.
Et jusqu'alors, on ne pouvait pas en avoir à la maison du tuyau d'arrosage.
Non.
Hein.
Ah non.
Mais écoutez, je ne sais pas avant... Que le tuyau d'arrosage, ça a été inventé quand
Ça a été inventé il y a 3 ans.
C'est une bonne question, quand même.
En même temps que le cinéma muet.
Voilà.
Est-ce que vous en avez... C'est le premier gag du cinéma muet.
L'arroseur arrosé.
En avons-nous tous chez nous ?
De quoi donc ?
L'invention de Monsieur Brahma.
Non, mais moi j'aime. Alors je vais vous dire, je l'envisage.
Ah oui, c'est le bidet. C'est
le bidet. Le jour où je gagne vraiment de l'argent,
un sauna.
Ah, c'est très cher.
Un sauna,
c'est très cher. Et combien ça coûte ?
C'est cher.
Ça coûte cher.
Un ordre d'idée, plus de 10 000 euros ?
Ça coûte. Ah, quand même, on peut en avoir à partir de 199 euros.
Ah oui, c'est...
Bah, c'est un truc pour les pauvres.
Vraiment,
c'est
le jour, vous gagnerez beaucoup d'argent, alors.
C'est pas un sauna, alors.
199 euros, c'est presque le prix d'une place pour une demi-finale à Marseille.
Et ça peut aller très cher.
Ça va parfois de pair, hein, notez bien.
Ah, c'est lié au football.
Ça peut aller jusqu'à 1 000-2 000 euros.
Un sauna, non.
C'est lié au foot, c'est
un bain de vapeur.
Non.
Un hammam. C'est pour protéger.
Pourquoi vous dites c'est lié au foot ?
C'est pour protéger.
C'est pas seulement au foot.
Ah mais... voilà, une machine pour faire du sport.
Une machine pour faire du sport, non.
Ok.
Il vous reste 30 secondes.
C'est un rapport avec l'après-sport, quelque chose pour se détendre.
Plutôt.
Le stick déodorant. Une table de massage.
Une table de massage à ma gauche. Un stick déodorant à ma droite.
Une machine
Une masseuse thaïlandaise.
Il a inventé la kinésithérapie.
La kinésithérapie.
Il a inventé la sextape.
À la jabot, une sextape.
Et le match, il a lavé.
La serviette. La serviette éponge.
Une capote anglaise.
Un raton laveur.
Une capote anglaise.
Rien de tout ça, évidemment. Et c'est 300 euros pour Stéphane Novak. Aujourd'hui, c'est quoi donc aujourd'hui? C'est la Saint Patrick aujourd'hui.
Ah, je sais ce que c'est.
Et oui. Qu'est-ce qu'on va fêter, évidemment, dans toute l'Europe et même dans le monde entier, parce que des Irlandais...
La pompe à bière. La...
Et
bière,
voilà, il a inventé la pompe à bière pour faire des pressions, la pompe à bière. La tireuse à bière, si vous préférez. Je vous ai dit qu'il avait inventé la chasse d'eau, ça aurait dû vous aider, vous voyez, on n'est pas...
Enfin, ah, excusez-nous.
Oui, bon, c'est pas pareil.
Ouais. Enfin, ça mousse, ah, mousse nous,
on boit pas nos œufs usés.
C'est quand même si, on imagine bien qu'il y a un peu du mécanisme, vous voyez.
Oui,
ouais, ouais.
Donnez-moi un demi bien pissé.
Alors, Laurent, vous envisagez de vous installer ça chez vous?
Qu'est-ce qui vous amuse? C'est le côté la pompe.
Oh là là.
Oh là là, mademoiselle Dombard.
Elle est à l'aise.
Elle se dévergonde.
On lui donne ça. Ça.
Dis donc, la poulette.
Comme disait Rango.
Elle est gourmande. Autre question culturelle, mais de culture générale pour Claire Loquet qui habite Coutiche. Si vous connaissez bien la bande dessinée, vous saurez retrouver le nom de ce héros qui était toujours accompagné dans ses aventures par le jeune Roddy et l'érudit professeur occultiste.
Snoopy ?
Non.
C'est une BD belge ?
Alors écoutez, à ma grande surprise, c'est une bande dessinée d'origine italienne. Je l'ignorais, parce que moi je lisais ça quand j'étais gamin, et je vous montrerai d'ailleurs la BD pour ceux qui la connaissent dans un instant, mais c'est vrai que je me souviens, et c'est l'actualité qui m'a fait rappeler de cette
c'est
bande
dessinée. C'est pas Black Le Rock, c'est...
Comment vous dites ?
Black Le Rock.
Black Le Rock, excellente réponse de Bernard Mabille.
Ah, vous avez lu ça aussi, Laurent.
Ah ouais, avec Hakim.
Alors là, tu nous as scié. Là, on est mirabilisés.
Black Le Rock. Bravo Bernard. Eh ben, c'est d'origine italienne, Black Le Rock. Alors Black Le Rock, c'était un trappeur américain dans la BD qui participait à la guerre d'indépendance américaine contre les troupes anglaises. Vous voyez qui c'est vous?
Pas du tout, je suis trop jeune.
Tenez, faites passer à vos camarades Black Le Rock.
Et son assistante encore plus.
Et vous savez pourquoi évidemment j'ai pensé à Black Le Rock, Bernard?
Non.
Bah si, voyons, à cause des retraites.
Ah.
Regardez. Ça s'écrit comme ça, Black.
Blake.
Ça,
oui.
Moi, dans ma tête, c'était.
Mais le professeur occultiste, il a, on dirait, un Sancho Panza un peu.
Il est français, le docteur
occultiste. Il est beau, Blake.
Pardon.
Il est beau, Blake.
Oui, il est gaulé, Blake. Il
est avec une castor.
Et qui est-ce qui va jouer le rôle de Blake?
Personne.
Pourquoi vous me demandez ça? On va pas faire un biopic.
Pas du tout. Si je vous parle de Blake Le Rock, c'est
pour les retraites.
En référence aux retraites à Black Rock, évidemment.
C'est qui Black Rock?
Monsieur Mabi, expliquez au petit.
C'est un fonds de retraite, c'est ça.
Voilà.
Dont le patron français était décoré de la Légion d'honneur.
Ça se fait plus, cette bande dessinée-ci?
C'est bimensuel.
Elle se fait toujours, cette bande dessinée?
Elle se fait toujours moins, évidemment, que votre bande dessinée qui a dû se vendre comme des petits pains, j'imagine.
C'est vrai.
Comme son film.
Ah oui.
Alors non, excusez-moi. Alors, puisqu'on est bien... Non.
T'avais une bande dessinée de Stéphane pour une sortie du film.
C'est moche, j'en suis déjà au tome 3.
Mais c'est une
question du tome 3, t'as qu'à voir.
Très bien. Bien.
Voyez-vous
bien.
Alors c'est vrai que le film, on va pas proposer la suite.
Je l'ai vu ton film, ça y est.
Ah.
Dans une station service pour un plein.
À Noël, c'est pratique, vous avez dû distribuer, j'imagine. Alors... quand vous étiez en famille. Alors, à l'oncle, la bande dessinée, à la tata.
Un jeu de société.
À la grand-mère.
L'organisateur.
Il y a tous les produits dérivés, Stéphane.
J'ai des stylos aussi.
Des pas fou. Ils
m'ont offert un stylo, une tasse. Tu comprends, toi?
C'est tout ce que vous avez eu?
Oui, oui,
ah bah, ah oui. Toi, qu'est-ce que t'as offert?
Ah ben moi, je vais vous faire un stylo Jean-Philippe Janssen.
Oui, mais il est plus long, Jean-Philippe Janssen.
Non, t'as tes petites étiquettes de bagages qui sont mignonnes, Jean-Philippe.
Oui, j'ai fait des étiquettes de bagages et une étiquette de bagages.
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait à Noël, Ariel, au fait?
Moi, j'ai dansé, j'ai chanté.
Ah bon?
Des cantiques.
Mais où ça?
À l'île Maurice?
J'étais en Afrique, au Maroc.
Au Maroc?
Oui. Et c'était merveilleux. Mais alors, très difficile de trouver des sapins.
Ah.
Oui.
C'est vrai que c'est pas ce qui pousse le plus.
On n'en a pas assez conscience.
En revanche, les boules, tu les as trouvées.
C'est la fameuse histoire de Francis Blanche. Il était dans le désert, il y avait des sapins. À l'époque, il y avait des sapins partout. Mais il a dit, coupez-moi tout ça, Ara. Et restons avec le président de la République, M. Emmanuel Macron, qui a un philosophe parmi ses philosophes préférés, dont je vais vous demander de retrouver le nom, et ce sera une question pour Alban Rocher, qui habite Alençon. Quel est le nom du philosophe préféré, souvent cité par Emmanuel Macron? Un philosophe, je vais vous le dire quand même, né le 1er juillet 1646 à Leipzig.
Okay. Heidegger.
Heidegger, non.
Il est allemand.
Hegel.
Hegel, non.
Il est mort où?
Alors, il est mort, je vais vous dire exactement. Il est mort à Hanovre en 1716.
On cherche un philosophe allemand du 17e.
Jacques Ellevitch.
Alors, généralement, même, on dit plutôt milieu 17e, même début 18e.
Ouais. Jacques Ellevitch.
Pardon?
Jacques Ellevitch.
Mais il y a Jean Kelevitch.
Il jouait avant-centre à Hanovre, oui, mais c'est pas...
C'est un philosophe.
Il a vécu au 20e.
Yeah, oui.
Kierkegaard, c'est pas ça.
Kierkegaard, c'est... non, pas au
17e.
Pas au 17e, 18e.
Spinoza.
Spinoza, non.
Est-ce que le nom sonne très allemand?
Ah oui, philosophe, Kant. Scientifique, Kant, non, mathématicien, logicien, diplomate, juriste.
Leipzig.
Pardon?
Leipzig.
Comment vous le dites?
Leipzig.
Non, c'est Leibniz.
Excellente réponse de Jean-Jacques Véroni. Leibniz. Ça, c'est de la culture, vous voyez.
Moi, c'est de la bouillasse, merci.
Ah bah non, vous, c'était du potage. Liebig, vous m'avez dit.
Qu'est-ce qu'il a écrit, Leibniz?
Oh, vous voulez que vous...
ça nous intéresserait quand même.
Vraiment, ça vous intéresse,
Bernard. Vous voudrez être aussi intelligent que le président.
Alors, écoutez, je vais vous donner la liste de ses œuvres.
Pas tout, hein.
Pas tout, mais je ne vais pas vous mentir. Je ne connais pas ça par cœur, mais je peux vous donner quelques exemples. Si vous voulez lire tout à fait comme M. Macron, la philosophie et les œuvres de Leibniz, qui sont écrites en latin, 40%, en français pour 35% de son œuvre et en allemand pour un quart.
Et s'il y en a un peu plus, je vous le mets quand même.
Alors écoutez, vous pouvez aller réclamer chez votre libraire Disputatio Metaphysics des Principios Individui.
Ah, il dit ça, lui.
De Arte Combinatoria.
D'accord.
Disputatio de Casibus Perplexus Injure.
D'accord.
Ratio Corporis Iuris Reconcinandi.
De Profondis Morpionibus.
Hypothesis Physica Nova.
Il n'a pas lu ça.
Confessio Philosophie.
Il n'y a pas aussi la Guyane est une île, non? Il a pas le...
Oh, t'es méchant.
Non, mais ça a été traduit, attendez.
On paraît un peu con quand même. Hein.
Non, mais ça a été traduit.
Bien sûr, il n'a pas lu en latin.
Vous avez lu tout ça, vous, Chantal?
Pas du tout, non. Moi, j'étais jusqu'en philo, je m'excuse quand même. Et
m'excuse quand même.
Pour son professeur, oui, parce que quand tu vois le résultat...
Il a bossé pour rien.
Fallait que le professeur soit sacrément philosophe.
J'ai été jusqu'en philo, je m'excuse.
Nous allons aborder maintenant Kierkegaard, là-dessous sortez. C'était sa phrase.
Ça, c'est joli aussi.
Et quels sont vos philosophes préférés, Chantal, là-dessous?
Sigmund Freud.
Ah oui, c'est oui.
C'est pas un philosophe,
c'est un psychanalyste.
Champfort, Manu Reva, c'est bien.
Ah oui. Non, j'en ai pas vraiment. Non. Je creuse un peu.
C'est ça. T'inquiète, on va le faire pour toi.
Non, mais vous pouvez lire Leibniz maintenant, voyez.
Leibniz. Il doit être traduit.
Ah bah oui, heureusement.
Oui, t'inquiète pas.
Il est traduit, je vous rassure. Son prénom, peut-être, ça peut vous intéresser pour une prochaine question des grosses têtes. Notez-le, Chantal. Oui. C'est Gottfried Wilhelm Leibniz.
Gottfried.
Ah oui. Gottfried.
Si, j'aime bien, par exemple, Alain.
Ah oui.
Le philosophe Alain.
Alain Champfort, c'est toujours le même.
Ah, vous aimez bien Alain.
Il a écrit un livre sur le rire, d'ailleurs.
Tu vois, Chantal, moi, je ne sais pas, je dis rien. Tu vois, je reste
Elle
là.
Elle est même allée voir le film du philosophe avec Clint Eastwood. Mon nom est Bergson. Non, franchement,
c'est vrai,
Chantal.
Bergson,
c'était pas Clint
rire,
Eastwood.
C'était pas Clint Eastwood.
Terrence Hill.
Oui, mais je veux me mettre au niveau de Chantal là-dessous, vous voyez.
Oh là là.
T'as lu le Cid de Molière?
Bien sûr.
Et le Cid d'où?
Mais vous me comprenez que vraiment, j'ai une certaine culture. Hein.
Bah oui, ma petite chérie.
Bien sûr que oui. J'ai plein de livres sur ma table de nuit, j'ai pas encore ouvert d'ailleurs.
Mais t'as dû prendre froid dans le jardin une certaine nuit.
C'était bien les mémoires de Robin Williams. Hein.
Oh, c'était il y a 3 ans, ça.
Elle n'a pas fini.
Une question pour Nathalie Noémie, qui habite Landeron.
Pour choisir, Nathalie ou Noémie?
C'est son prénom et son prénom, Nathalie, Noémie.
Nathalie.
Oh non, écoute.
Il n'y a rien que Noémie?
Non, j'ai pas Noémie.
Vous ne chantez jamais, vous, Mela Bédia, j'ai remarqué.
Parce que c'est trop beau quand je chante. Et je veux pas choquer tout le monde.
J'aimerais bien entendre le son de votre voix quand vous chantez.
C'est une très belle tessiture.
C'est vrai ?
Ouais.
Vas-y, chante, chante.
Vas-y, vas-y. Je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien ?
Vous connaissez Aya Nakamura ?
Ah oui, ah, oui.
Tcha tcha ?
Oh, bah ça me fait plaisir.
Ah bah quand même,
bah, quand elle est pas conne.
C'est,
c'est bien imité.
C'est même Nikos qui a écorché son nom et on lui en veut beaucoup.
Oui, il a fait Yaka, vrai. Yaka.
Voyez, voyez,
tout le monde le cherche en banlieue, ils vont le tuer. Hein.
Vous voyez qu'on est aussi jeunes que vous.
Alors vas-y, chante.
Oh, Dja Dja, je suis pas ta cat, hein, Dja Dja. Oh, Dja Dja, je suis pas ta cat, hein, Dja Dja. Ah oui, après, elle a trois mots de vocabulaire, Aya Nakamura.
Moi, j'aimais bien quand elle chantait. Comportement, bah ouais.
Ah ouais,
des comportements, bah ouais. Ouais.
Je suis contente d'être avec vous.
Ça change de la trompette de Pierre Bénichou. Hein. Et vous, Gaël, vous chantez Gaël Chakalov. Je suis sûr que vous aimez les karaokés, que vous faites des sorties karaokés. Ah, oui.
Bah, après la chasse.
Oui. Alors, non, oui, je voudrais revenir sur cette histoire
avec
de chasse.
Avec un orchestre symphonique.
C'est pas du tout ce qu'on croit. C'est très populaire, la chasse à coups.
Oh, oui.
Ça, c'est terriblement démocratisé.
Ah, elle s'enfonce. Sur mon pur sang, je me dis que c'est populaire.
Ah oui, ça s'est démocratisé comme le golf. Hein.
C'est vrai, maintenant, tout le monde fait ça.
C'est un pur sang, madame.
Bon, premièrement. Deuxièmement, oui, j'adore chanter. Parce que je suis d'une famille de musiciens et donc on chante beaucoup autour du piano. Voilà.
Ah, alors quelle chanson ?
Déjà, faut avoir un piano à queue.
Ah oui, mais déjà, t'as un piano.
Non, pas
vous chantez
piano
autour
droit.
Du piano.
Là, piano droit. Ah bah, désolé. La caricature n'ira pas jusqu'au bout.
Ah, pardonnez-moi.
Un karaoké, moi j'aimerais bien le karaoké avec
grave,
toi.
Ouais, dans le 19e, il y en a un génial.
Tu vas dans le 19e ?
Tu connais le 19e ?
Attention.
Non, prends ton passeport.
Elle parle du siècle.
Tu chantes quoi ?
Emmanuel, 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 voilà.
C'est les paroles d'Aya Nakamura.
C'est Aya Nakamura,
Emmanuel de Gainsbourg. Vous la connaissez celle-là ou pas?
Pas du tout, c'est quoi cette chanson?
Ah, bah, elle est géniale, j'en ai fait la sonnerie de mon portable.
Emmanuel,
Emmanuel de Gainsbourg.
Ça alors?
Hey, elle est vraiment fan de Macron. Hein, tu
ouais,
vois
c'est ça.
Mais c'est une blague, ça va.
Emmanuel.
Ah, t'es amoureuse de Macron?
Je suis pas amoureuse de
Macron.
Elle est amoureuse.
Mais c'est lui qui m'a redonné envie d'aimer la politique.
Carrément.
L'envie d'aimer. Ce sera nous.
C'est lui et Juppé qui m'ont redonné envie d'aimer.
Alors Juppé, c'est une autre chanson. Ce sera mou dès demain. Ce sera mou. Le gourdin.
Non, vous êtes quand même, vous êtes dingue. Vous n'avez aucun sens de l'État, quoi. C'est un truc.
Je vais poser ma question. Ça vaut mieux pour Nathalie Noémie, donc, disait.
Ah oui, c'est ça. On est en partait de là.
Nathalie Noémie.
Qui habite Landeron dans Vendée.
Nathalie.
Oh non. Qu'est-ce qui est immortel? Enfin, qu'on qualifie d'immortel et qui.
Drucker.
Non. Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel et qui date du 21 juin 1851 ?
Ah bah Drucker ?
Non.
Non, ça marche.
La fête de la musique ?
Non.
Est-ce que c'est...
Un objet ?
Un objet ? Non.
C'est lié à l'Académie française ?
Non plus. Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel et qui date du 21 juin 1851 ?
En France ?
En France, dans le monde.
Ah, pas une personne physique, hein ?
Ce n'est pas une personne physique.
C'est un texte. Une technique ?
Une technique ? Ah, il y a quelque chose de technique.
Une invention ? Donc,
une invention, non.
C'est la naissance de quelqu'un ?
Non plus.
21.
C'est un texte ?
Un texte, non.
Il y a quelque chose qui a été créé ce jour-là, en tout cas.
Ça n'a pas été créé, non. Ah. Ça a été
découvert.
Découvert, non plus.
Décrété, alors.
Décrété, oui, on a décrété.
Voilà. C'est une idée, en fait.
Pardon ?
C'est une idée, c'est chose de concret.
Ah, si, c'est quelque chose qui est plutôt concret, oui, et qui a été jugé immortel.
Une œuvre d'art ?
Une œuvre d'art, non.
Une sculpture ?
Une sculpture, non.
Est-ce que ça se mange ?
Ça ne se mange
pas. Ça se boit.
Ça se voit.
Les spécialistes sauront sûrement de quoi je parle parce qu'eux, ils disent, bah oui, c'est la immortelle.
Est-ce que ça...
Et ça date du 21 juin 1851 et ça s'est passé à Londres.
Est-ce que ça s'ingère?
Non.
C'est lié à Londres? C'est vraiment lié à l'Angleterre?
Non, il se trouve que ça s'est passé à Londres, mais ça aurait pu se passer ailleurs.
C'est lié à l'électricité?
Il se trouve qu'il y avait l'exposition universelle de Londres cette année-là en 1851.
L'électricité?
Non plus.
Le téléphone.
C'est immortel au masculin ou au féminin?
C'est au féminin, monsieur.
Ah, c'est une fille. Ah. Est-ce que c'est lié au transport?
Au transport, non.
Aux communications?
Aux communications, non.
Un phénomène météorologique?
Non plus.
À la beauté? À la santé?
Non plus.
Oh, la naissance de la reine Victoria?
Aucun rapport.
C'est littéraire?
littéraire, non.
On est obligé de
répondre. Et on dit souvent la immortelle, non ?
Oui, pour les spécialistes, ils savent que c'est la immortelle.
Est-ce que c'est les neiges éternelles ? Ça existe, c'est lié à ça ?
Rien à voir avec la neige.
Vous dites les spécialistes, c'est une discipline particulière ?
Oui, monsieur Gazan.
Ah, une discipline sportive ?
Sportive, oui. On considère qu'il s'agit d'un sport.
La pétanque.
La pétanque, non.
Un sport individuel ou collectif ?
C'est un sport individuel.
Les échecs ?
Oui, et donc ?
C'est une combinaison d'échecs.
Je sais pas.
L'ouverture immortelle.
La reine est immortelle.
Non, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ?
Eh ben, on a dit que
c'est une partie qui est restée célèbre, qui est immortelle.
Et qu'on appelle donc
l'immortelle.
La partie immortelle.
La partie immortelle. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Gazan. On va dire que c'est collectif, Gazan, Ben Guigui,
oui,
à part Mela Bédia, évidemment, Gaël Tchakaloff et notre ami Jean-Philippe Janssen.
Oui, donc c'est moyennement collectif. Moi,
c'est semi-collectif.
Moi, je n'ai rien demandé, je suis dans mon coin.
Mais là, c'est quoi ? C'est une partie qui n'a jamais pu avoir de gagnant ou de
cette
perdant.
Année-là, à l'Exposition universelle de Londres, il y a eu une célèbre partie d'échecs jouée par Adolf Anderson et Lionel Kiziretsky qui a été jugée probablement unique dans l'histoire des échecs, une partie dite immortelle, parce que d'un seul coup, un des deux joueurs a sorti une combinaison absolument incroyable, et c'est la partie de référence pour ceux qui jouent aux échecs, mais manifestement ici, il n'y en a pas beaucoup.
Moi aussi, je peux vous en sortir des combinaisons incroyables.
Et des échecs.
Chez moi, j'ai des combinaisons incroyables.
Gaël aussi, elle a une combinaison de lapin, elle a une combinaison incroyable.
Mais peut-être que c'est la seule qui joue aux échecs ici, Gaël Tchakaloff.
Non, moi, je joue au jeu de Go.
Quoi ?
Ah, au jeu de Go.
Oui, parce que ça joue
au jeu de Go.
Ça s'est démocratisé.
C'est très populaire.
Je joue au jeu des gueux, pardon, vous avez mal compris.
J'ai ri grâce aux anciens sketchs, mais aussi ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y en a des nouveaux. Quand
ah
même.
Ouais.
Ah,
oui.
Bah, ouais.
Ah, je dois dire qu'ils sont forts.
Ah, on va pas tout dire, mais quand même. Non, il y a une idée géniale, pardon, monsieur.
Ah ben non.
Ah si, monsieur. Ben non. Non, parce que je sais spoiler. Que vous y allez ce soir.
Mais non, mais j'y vais ce soir. J'ai pas envie d'être spoilé.
Oh, mais tu seras pas spoilé.
Juste pour les petits auditeurs.
Tu seras teasé. Tu seras teasé.
Je peux partir faire pipi si vous voulez. Non, mais sérieux, on peut m'isoler dans une.
Non, vous pouvez partir.
Oui.
D'accord.
Non, mon cri-cri d'amour.
Enfin.
Non, mais
ah, vache,
Muriel a une idée formidable, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'elle fait souvent personnages. C'est le principe même de ses sketchs. Et hélas, elle a bien raison, on en fait de moins en moins aujourd'hui dans l'humour. Hein. C'est surtout du stand-up. Chacun arrive, il dit alors hier soir, j'ai bouffé avec ma mère. Bon, bref. Là.
Ah, bah oui, bah, le mien
pour quelqu'un qui a encore
ça.
Ouais, voilà.
Ah, bon. Ça, c'est le spectacle qui joue au Palais des Congrès, ça.
Là, Muriel, elle fait des personnages, mais elle a eu une meilleure idée pour son prochain spectacle. Vous ne ferez plus de personnages.
Non.
Vous ferez des objets.
Ouais, je vais faire des objets. Par exemple, on peut imaginer qu'une imprimante, quand elle attend, elle voit arriver la personne qui va faire, qu'est-ce qu'elle va me faire aujourd'hui, une photocopie. Tiens, tac, aïe, va faire plus fort le capot, tu vas voir, je vais te le faire payer. Tic, 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 je vais lui sortir la feuille millimètre par millimètre. Tic, 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 tiens, approche la main. Crac, marche arrière, je reprends la feuille. Tac, 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 tac. Attends, vas-y doucement, je te jure que si je suis capable. Je vais te faire un bourrage. Regarde.
Donc, t'as tout. Vous êtes un homme objet, un peu, monsieur de Chavannes.
C'est ce qu'elles disent toujours.
Pourquoi vous mettez ça au pluriel ? Vous n'avez qu'une compagne, j'imagine, monsieur de Chavannes.
Bien sûr, j'ai qu'une compagne.
Ah ben alors, pourquoi vous avez
mais
dit
ça ?
Je veux dire, j'ai même une sacrée compagne. On va arrêter ces conneries. Je te remercie.
Bah, moi aussi, j'ai une compagne.
Ouais. Ah ben, oui, c'est la même.
Justement, je voulais qu'on en parle.
Elle était là hier. Qu'est-ce qu'elle est jolie d'ailleurs.
Oh là là. Elle est magnifique.
Vous parlez de ma femme ?
Non.
Non, la mienne.
Ah, elle est jolie aussi. Je l'ai vue cet été, votre compagne.
On va faire le tour de toutes les vies privées de chaque habitant. Et vous, alors, où vous en êtes ?
Il est bien.
Fais le mariolo. Alors, où on en est ?
Bah, j'en suis.
C'est du fixe. C'est du fixe. C'est du temporaire.
Vous avez un compagne ?
Non.
Il est casé. Là, il est casé.
Là, je ne voudrais rien balancer. Mais tu ouvres la bouche et je balance tout.
Une citation.
Qu'est-ce qu'on le boulot, c'est son cadre, le boulot.
Pour Michael Toiti, qui habite Jérusalem, et où on a des auditeurs jusqu'en Israël, et voici la citation, qui a dit « La vie après la mort est aussi peu plausible que le sexe après le mariage. »
Bien joué. Oh,
c'est mort.
Oh bah Jean-Yann.
Jean-Yann, non.
Dans le genre.
C'est français, c'est mort.
C'est français.
C'est pas mort.
Et c'est quelqu'un qui vit encore.
Et qui est quelqu'un que vous aimez bien ?
Oh oui, oh, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a fait les grosses têtes à une époque.
Un homme objet ?
Dans les années 80-90, non.
Il était déjà âgé alors.
Non.
Un humoriste.
C'est quelqu'un qui est humoriste.
Qui vous fait rire autant que Muriel.
La attention question... à la réponse. Attention.
Moi je serais vous, je dirais non, hein, comme ça, au hasard.
C'est Sim.
Il y a très. Pardon.
Sim.
Sim qui me fait rire autant que Muriel, oui. Ah
c'est vrai que c'est un peu le même registre.
C'est Vendeur.
Il n'est plus que ce monde.
C'est un peu le même registre.
Non, je cherche.
Il est mort, il est mort.
Ça se joue à quelques cheveux près. Hein.
Ah, mais il était très drôle, Sim.
Ben, oui. Voilà.
Mais là, il s'agit d'une femme.
De la tronche en
biais. Anne Romanoff. Anne Romanoff.
Anne-Marie Carrière, non. Anne Romanoff, non.
Masha Merrill.
Masha Merrill, non.
Marianne Sergent.
Non. Attends, et c'est Marianne Sergent. Oh là là. Bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Catherine Mérida, qui habite Pessac, en Gironde. L'architecte Augustin Fresnel a construit quelque chose qui mesure 47 mètres et dont on a beaucoup parlé ce week-end. De quoi s'agit-il ?
Le phare de Biarritz.
Le phare de Biarritz. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Alors, est-ce que c'était une bonne idée de la part de M. Macron de réunir les chefs d'État autour du phare de Biarritz ? Parce que c'est que la nuit...
Oui, la nuit, ça drague autour du phare.
Comment vous le savez ?
Parce que quand j'étais jeune hôtesse de l'air... Et qu'on faisait des petits... je faisais la France et on s'arrêtait des fois à Biarritz, on dormait là-bas, on n'était pas loin du phare. Et on m'avait dit, va là-bas et ça fricote.
Et c'est là où t'as rencontré Laurent.
Alors attendez, non, on ne s'est pas rencontrés là, vous ne croyez pas si bien dire. C'est que moi, pendant quelques années, il y a longtemps, j'ai revendu il y a quelques années, mais c'est la première propriété que j'ai eu la chance de pouvoir acheter quand j'ai commencé à gagner de l'argent. J'avais acheté au deuxième étage un appartement dans une maison.
J'étais venu vous voir là-bas.
Qui donnait, vous étiez venu.
Sur le phare.
Qui donnait sur le phare, sur le rocher. J'ai vu ma maison tout le week-end. Et c'est vrai qu'à Biarritz, quand les gens ont su, on va dire, que voilà, je n'étais pas seulement hétérosexuel.
Comment qu'ils ont su ?
Les gens racontaient que j'avais acheté cet appartement parce que... Mais on ne savait pas. Et c'est vrai
vous,
que...
Vous défendez bien mal. Quand
même. Non. Je vous jure que je l'ignorais. Moi, j'arrive à Biarritz comme un puceau, vous voyez.
Mais vous avez bien remarqué le micro.
Sauf que, attendez, je sors mon chien le soir.
Voilà, non.
Il y a un bandeau dans un jardin.
C'est pitoyable comme
excuse. C'est pour ça que Donald Trump, il a dû avoir des surprises.
Il en a perdu son tout pied.
Je sors mon chien le soir, puis d'un seul coup, je vois beaucoup de gens qui sortent leur chien sans chien.
Juste avec une laisse.
Donc, j'ai trouvé ça étonnant. Quand même, vous saviez.
Mais d'ailleurs, le phare, c'est un symbole phallique.
Oui.
Hein.
Ah oui.
Ah bah oui, on peut s'en parler.
Ah oui.
Tiens donc. Il y a une espèce de micmac autour de ce phare, c'est incroyable.
Ah oui.
Mais ça sort des buissons, hein, les gens.
Ça
doit être fini aujourd'hui avec l'époque moderne.
Mais je crois que maintenant, avec les applications, tout ça, les gens ils commandent sur le catalogue directement, mais ils ne vont plus. Mais c'était à l'époque...
Moi, à l'époque où les gens avaient du mal à se retrouver.
C'est ça, il y a 20 ans. Moi, je vous parle de ça il y a 20 ans.
Ben voilà.
Eh ben, on allait autour du phare.
T'as fait l'amour là-bas ou pas? T'as fait l'amour là-bas?
Mais... Ça s'appelle pas faire l'amour. Tu rentres dans la buisson, tu rentres de l'autre côté, ça s'appelle pas faire l'amour.
Ça veut dire être écolo.
Comment ça se passait, alors, autour du phare à l'époque?
Ah ben... Vous y alliez, alors, comme si de rien n'était, effectivement, faire une petite balade, tu vois, comme ça, innocemment, dire je vais voir le bord de mer. Et tu vois que ça s'agite un peu partout, c'est comme des marmottes qui sortent leur tête, comme ça. pour repérer ce qui se passe. Oh non !
Tu t'imagines,
vu des têtes. Et là, tu t'avances, et puis tu vois qu'il y a des buissons, où c'est une marmotte, où c'est quelqu'un dedans.
C'était pas des vendeurs de piments d'Espelette.
Ah non, non, mais sur l'échelle de Scoville, ça monte haut. Hein. Parce que ça pique au cul, je te le dis, moi.
Une question culturelle pour Marie Bourguet, qui habite Marseille. On est en 1750, quand le maréchal de Saxe décède. Et quand, à propos de sa disparition, quelqu'un écrit qu'on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire bien.
Voltaire.
Voltaire, oui.
Ah non, 1750.
Mallarmé.
Ce n'est pas Voltaire.
C'est Diderot.
Ce n'est pas Diderot.
C'est Goethe. Peut-être le roi.
Le roi, non.
Fontenelle.
Alors il faut savoir qu'il a écrit ça, ce monsieur, parce que sa femme a été, comment dire, empruntée par le maréchal de Saxe.
Ah oui, alors c'est Adrien Le Couvreur.
Madame Le Couvreur, non. Et c'est vrai que...
Le plombier.
Le plombier, non.
Il a un square dans le 9e.
Non, 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 mais c'est vrai que sa femme a été contrainte de s'enfuir pour échapper aux assiduités.
Ah oui, mais Favard.
Pardon.
Favard.
Favard, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Il s'agit bien de Charles Simon Favard et de Madame Favard qui a été obligée de coucher hein, de guerre lasse. Elle a cédé au maréchal qui la persécutait et son mari a été obligé de laisser faire. Hein, c'est
ouais,
ça.
C'est un opéra d'Offenbach, Madame Favard.
Madame Favard. Et
d'où la salle Favard.
D'où la salle Favard. L'opéra comique, effectivement, la salle Favard. Et c'est assez joli quand même ce qu'a écrit ce monsieur à propos du maréchal marrant, quand il est mort. Quand on parle bien ou mal du fameux maréchal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Bravo,
Roselyne.
Une autre question culturelle et théâtrale pour David Goujon qui habite Châne en Saône-et-Loire. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin?
Ah bah oui,
oui. Je
c'est,
peux.
C'est pas Rabelais, hein?
Rabelais, non.
Non, c'est
la farce de Maître Patelin.
Corneille.
Corneille, non.
C'est du XVIIe siècle.
Alors la farce du Maître Patelin, on la situe autour du XVe siècle.
Voilà, XVe.
Voilà, au milieu du XVe.
Voilà, non.
Vers 1456, 1460. C'est, on est à la fin du Moyen Âge, voyez-vous.
Rabelais,
non. C'est pas Villon.
Ce n'est pas Villon, non.
Houellebecq, non.
Pouvez-vous me donner Houellebecq, non. Pouvez-vous me donner, écoutez bien la question, hein. Pouvez-vous me donner le nom de l'auteur de la farce de Maître Patelin?
Ah, bah,
on
ne
peut pas
Patelin.
Parce qu'il n'y a pas d'auteur.
Pardon?
On ne peut pas, il n'y a pas d'auteur.
Il y a un auteur, mais...
Oui, mais inconnu.
Un auteur inconnu.
Oh, ah.
Bonne réponse de Bernard Mabille.
Oh, vos questions sont d'une finesse, Laurent.
Oh, mais ça, c'était un piège à con, hein.
Oui.
Oui, c'est pour ça que j'ai répondu.
Bernard m'a demandé des questions pour lui, alors oui, j'ai fait un piège à
bravo,
con.
Bravo, Laurent, bravo.
J'ai une autre question, et ce sera pour Daniel Soulensky, qui habite Paris 15e. Une question à propos du cimetière Montmartre, où repose désormais le président Chirac.
Du Montparnasse.
Montparnasse. Où repose le président Chirac. Et si je vous emmène à Montparnasse, c'est parce que pas loin de la tombe du caveau de M. Chirac, il y a le caveau d'un académicien français qui reçut le prix Goncourt en 1938. Qui repose pas loin du président Chirac et eut le prix Goncourt en 1938.
Il a occupé son fauteuil en quelle année?
Oh, il a été académicien français, je vais vous dire, en 1959.
Il a remplacé qui?
Au fauteuil 28. Je ne suis pas sûr que ça va vous aider. Il remplaçait
si,
Claude Farrère.
Vous allez voir que si. Parce que, pardon.
Qui? Claude Farrère.
Claude Farrère.
Voilà, ça vous aide, ça, Bafi?
Qui était Claude Farrère?
Voilà, voilà.
Hein. Il a écrit « Les petites alliées ».
C'est quoi ça, les petites
Claude
alliées?
Farrère.
Oui, ah bah c'est, oui, mais c'est pas ça la question, vous voyez.
Oui, mais enfin, je vous le dis, j'ai le droit de dire quelque chose.
Il est mort quand, le voisin de Chirac?
Comment ça, il est mort quand?
Bah, celui qui repose, là.
J'allais demander ce qu'il est toujours vivant, puis j'ai réalisé.
Oui, mais il n'a pas trouvé de logement, alors. C'est, un truc,
c'est intéressant
un
parce qu'il est justement mort en 2007.
Ah oui, récemment.
C'était la fin du mandat
c'est Troya,
du président Chirac. Pardon?
Troya.
Henri Troya.
Bon,
très bonne réponse.
Ouais. Ouais, c'est la
de famille.
Merci, ça ne mérite pas ça quand même.
Il était d'origine russe, Henri.
Oui, et il écrivait debout, voilà ce que je sais.
Non, ah
oui.
Tu confonds que c'est lui qui jouait du piano debout.
Non, non,
c'est
non,
peut-être un détail
debout,
pour vous.
Il écrivait debout, il habitait face à notre
Est-ce que vous avez remarqué que je faisais la tête ou pas? Parce que sinon...
On voit rien avec la touffe devant, on voit rien.
Sinon, ça ne sert à rien que je le teste.
Ah, Isabelle.
Ah bah non, j'en avais pas remarqué.
Ah merde alors.
Ah Isabelle.
Ouais, c'est bien ce que je me disais, donc c'est pas la peine que je continue.
Pourquoi il aurait eu la...
Pourquoi vous faisiez la tête?
Mais parce que pour vous, un peu tout à l'heure, quoi que vous m'avez...
Alors tant pis, mais quand même, écoutez, alors, excellent boudin d'Isabelle Mergo. Et la question concerne Johnny Hallyday. C'est Laetitia qui raconte elle-même que quand Johnny avait 18 ans, et c'est vrai que la pauvre était bien loin d'être née, Laetitia, mais c'est Johnny qui lui a raconté ça. J'imagine un jour où ils étaient à l'Olympia ensemble. Et ah bah tu sais, la première fois que je suis venu à l'Olympia...
Oh, ah. Vous le faites bien.
Ah, c'est confondant. Moi, j'ai fermé les yeux, j'ai entendu Johnny.
Ah, moi aussi. Hein. Moi aussi. Et là, je viens de pleurer.
Bonjour Laetitia.
Ah. On l'a plus, là.
Non. Ne nous le
refaites pas.
Donc c'était à l'Olympia, tu vas peut-être avoir le même problème, hein, Jean-Philippe.
Ah ben oui, parce que vous y êtes les 8 et 9 janvier prochains, j'ai retenu les dates.
Ouais, et je m'appelle Jean-Philippe à cause de Johnny Hallyday.
Ah ben oui, c'est vrai. Ah ben peut-être qu'ils peuvent laisser les lettres rouges.
Oui, ben en même temps, s'ils laissent Johnny Hallyday, c'est chiant, quoi.
Mais pourquoi ils t'ont pas appelé Johnny? Johnny Janssen?
Non, parce que Jean-Philippe, parce que c'est Jean-Philippe Smet et qu'il s'appelait Johnny. Heureusement qu'il était pas fan de Dalida.
On va remarquer, ça aurait pas changé grand-chose.
Dalida, son prénom, Gigliola, c'était joli pour toi.
Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Johnny?
Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Alors,
merci de suivre, Marcella. Donc, Johnny a raconté à Laetitia que quand il avait 18 ans, après au cours d'un dîner, après un Olympia, vous voyez, il était assis à côté de quelqu'un qui lui a mis la main sur la jambe, puis qui a remonté doucement sur la cuisse, puis la main continuait à remonter, jusqu'à ce que la personne en question lui propose carrément d'aller finir la soirée ailleurs.
Marcella, tu faisais quoi ce soir-là?
Et il a refusé.
Et Johnny, 18 ans, a refusé.
Oh là là.
De qui s'agissait-il?
Eh ben, je l'ai lu et j'ai oublié.
Pardon?
C'est un homme.
Oh non, c'est pas
non,
un homme.
Non, non. Je me demande si c'est pas une star américaine.
C'est pas Lynn Renault.
Oh, bah, écoute, Lynn Renault, elle nous écoute.
Mais non, Lynn Renault, elle était avec
sa marraine dans le métier.
Oui, mais justement.
Non, je crois que c'est une star américaine, Laurent.
Pardon?
C'est Mireille Mathieu.
Oh, Mireille Mathieu, non.
C'est une star américaine, Laurent.
Quel souvenir avez-vous de Johnny à l'Olympia, hein, demandait dans le JDD
Brigitte Bardot,
le journaliste. Et là, évidemment, voilà, Laetitia répond, bah, j'ai une anecdote que Johnny m'a racontée. La première fois que je l'ai accompagné, sa rencontre avec 1-1-1-1, qui a tout fait pour le séduire, pour l'avoir dans son lit. En fait, il avait 18 ans, il ne savait pas comment
Edith
faire.
Oui, Edith Piaf.
Edith Piaf. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh, oh.
Non, mais alors, c'est faire Edith Piaf, c'est vrai que...
Ah bah oui, mais enfin, c'est quand même impressionnant. T'as 18 ans, t'as Edith Piaf qui est là, qui fait « Allez, venez,
manger là. »
Elle avait quel âge à cette époque?
Elle devait avoir 150 ans.
Mais non, elle est morte hyper jeune.
Elle est morte à 46.
Oui. C'est une collabo en plus.
Oh, voilà autre chose.
Oh, ça y est, voilà la tondue qui parle de l'autre.
Elles sont référencées dans un bottin.
Pourquoi Edith Piaf a collaboré? Pourquoi
c'était une collabo, bien sûr.
Non,
mais tout le monde a oublié ça, mais bien sûr que oui.
Ah, mais ça doit faire drôle quand t'as 18 ans, quand même, t'as Madame Piaf assis à côté de toi. Tu sens la main qui remonte comme ça tout doucement.
Elle était coquine, dites donc.
Ah, bah elle était coquine, on dit quand même qu'elle s'est fait tous les compagnons de la chanson.
Oui, elle était coquine, si c'était un, ça serait balance
tout. Tu m'étonnes. Une cloche sonne, sonne. Boing, boing.
Oh, s'il te plaît. Edith Piaf s'est fait tous les compagnons et Dorothée tous les musclés. Hein.
Ah. Et je vous raconte pas de sa tournée à Moscou avec les chœurs de l'armée rouge.
Mais alors, c'est bizarre que Laetitia raconte ces anecdotes.
Ça, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai que c'est...
C'est parce que je pense qu'elle veut se dédouaner des...
Elle fait diversion.
Pourquoi elle se montre avec un mec? Qu'est-ce qu'on a à faire qu'elle ait un amoureux?
Bah, c'est pas elle
c'est
qui
se montre.
C'est les gens, c'est les paparazzi.
Non, mais elle veut le montrer. Moi, je l'ai vu avec lui aussi. Elle veut le montrer.
Là où Marcella a raison, c'est vrai qu'au fond, si Laetitia raconte ça, c'est de son inconscient qui parle. Elle veut montrer que certes, elle était jeune et qu'elle a dragué Johnny, mais qu'après tout, vous voyez, Edith Piaf, elle, draguait Johnny quand il était jeune.
Oui, mais voilà, Johnny, c'est pas fait Edith Piaf.
Ça, c'est le quart d'heure du docteur Freud, maintenant.
Non, mais non, mais là, c'est une analyse tout à fait pertinente, moi, je pense. Parce qu'elle se montre avec un jeune maintenant, alors...
Mais il n'est pas jeune, il est plus âgé qu'elle.
Âgée, le même âge qu'elle.
Mais enfin, elle a rencontré un homme, elle est amoureuse. Laissez-la tranquille.
Mais
elle n'a pas fini le.
Non, mais c'est quand même
vagin,
pas possible.
Vous auriez dit oui à Piaf, vous, Jean-Phi. Hein? Je répète
alors,
ma question.
Ça brûle pour point.
Si elle avait une grosse. Oui.
Non, genre, moi j'aime les chansons d'Edith Piaf.
Celle-là, monsieur Ruquier, elle va rester dans les annales.
Quel bel hommage.
Si j'ose dire.
Moi qui suis fan d'Edith Piaf.
Mais moi aussi je suis fan. Oui.
C'est quand même formidable, Piaf.
Ah oui,
c'est une de nos meilleures chanteuses et vous dites des horreurs, monsieur Jean.
Non, je rigole. Non,
quand vous serez à l'Olympia, les fantômes d'Edith Piaf vont.
Arrêtez, je suis superstitieux avec ça. Vous savez que je n'ai jamais pu regarder le film d'Edith Piaf, là, parce qu'on dit qu'il y a une malédiction Piaf.
Je pense qu'elle a un esprit très fort et qu'elle a, elle a été entourée de malédictions toute sa vie parce qu'elle a subi des mauvaises choses. Et du coup, on disait qu'il y avait une malédiction autour de Piaf. Et donc, il fallait éviter de regarder des trucs avec elle.
Mais tu confonds avec Dalida qui a eu plein de malheurs.
Parce que Edith Piaf, elle a pas eu de malheur.
Oui, Edith Piaf, elle a pas.
Avec son, avec, et quand même son steward, la Marcel Cerdan. Et vous, alors, vous allez faire la fameuse cérémonie avec vos lettres rouges sur la façade de l'Olympia, monsieur Janssen.
Oui.
C'est le 8 au matin, ça se passe quand?
Le 8 au matin.
Oh, si vous voulez, je viens. Hein.
Ah, je viens et on a le droit de poser une de ces lettres. Hein.
Comment ça?
Les machins, ils mettent les néons là. Les,
ah,
les
tu vas poser laquelle?
Et on a le droit d'aller aider en poser une lettre.
Ils sont quand même radins, ta prod.
Je vous disais que c'est ma mère qui monte, alors on a fait renforcer l'échafaudage. Mais, mais elle va aller dessus poser une lettre. Ça doit être émouvant quand même. C'est le matin, 7h du matin, 8h du matin.
Attends, mais tu veux te débarrasser de ta mère ou quoi? Tu vas pas la faire monter en
je
haut de
l'étage. Je veux qu'elle soit dans l'émotion, qu'elle pose une lettre. Elle dit, mais... c'est mon gamin. Voilà.
Votre grosse maman, là, elle va monter...
Sur un échafaudage renforcé.
Mais non, mais autant lui demander son héritage tout de suite.
Excusez-moi,
les gens vont être surpris. Ils vont dire, tiens, il y a Régine, elle s'affiche toute seule à l'Olympia.
Voilà, ça va être...
Ah bah ça va être joyeux.
Je sais que je vais être ému. Hein. Oh, oui. C'est émouvant. Hein. Oh, quand même. Hein. Les deux soirs et tout ça. Genre,
deux soirs, elle va rester sur l'échelle. C'est pas gentil, laisse la descendre, qu'elle voit le spectacle.
Et votre papa, il sera où pour l'instant là, votre papa?
Eh ben, il tient le groupe électrogène.
Je vais poser une question culturelle sur laquelle... Peut-être Monsieur Gisbert va pouvoir briller une fois de plus. Ce sera pour Cédric Sénéchal, qui habite Cergy, dans le Val-d'Oise. On nous annonce la sortie d'un livre. Je ne vous dis pas le sujet du livre, parce que ça pourrait vous aider pour la réponse, mais un livre en deux volumes, sauf que le premier volume se présente sous la forme d'un Leporello. Mais qu'est-ce qu'un Leporello?
Leporello, ce n'est pas un personnage de la Commedia dell'arte.
Alors, vous avez raison, Leporello, c'est un personnage, alors pas de la Commedia dell'arte, mais c'est un personnage, mais c'est devenu un...
C'est Polichinelle?
Polichinelle, non, mais c'est devenu un nom commun, hein, Leporello.
Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est un livre d'origine italienne.
Non,
c'est peut-être les quatre filles du docteur March, non?
Ah non.
C'est un Arlequin.
Mais ça peut être n'importe quel livre.
C'est illustré.
Ce que je vous demande, c'est quelle sorte de livre.
C'est illustré, c'est un livre illustré.
Un livre illustré, souvent, mais pas forcément.
Un livre qu'on écoute?
Non, pas un livre qu'on écoute.
C'est une forme, livre en braille.
En braille, non plus.
Est-ce que c'est un livre pour enfants?
Non, peu importe, ça peut être pour enfants ou pour adultes. Un Leporello.
C'est une forme géométrique?
Alors... Ah ouais,
oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses en carton qui sortent, enfin, il y a des personnages.
Ah, il y a des pop-up.
À l'intérieur, des pages.
Alors, il n'y a pas des choses en carton qui sortent, mais on se rapproche.
Des pliages.
On peut habiller des filles, des garçons.
On peut le découper.
C'est pas une espèce de. La façon dont sont pliées les pages, au fur et à mesure qu'on les ouvre, crée des figures ou des panoramas ou des formes.
Non, mais.
On peut le colorier.
Non, mais vous êtes tout près, monsieur.
Un livre avec des animaux et quand on appuie sur l'animal, on entend le cri de l'animal.
Ah, vous avez trouvé ça,
c'est
vous.
Pour les enfants.
Oui, l'hippopotame, par exemple.
Ouais. C'est peut-être votre femme qui vous appelait de la cuisine.
Oh, lâchez-moi, là.
Mais
vous imaginez.
Il y a des pliages japonais dedans.
C'est pas un livre où il y a de l'audio dedans, c'est-à-dire qu'on appuie sur des boutons.
Est-ce que ce n'est pas sous forme de petits calendriers avant Noël, petites fenêtres qui
sont... Les pages sont découpées et...
Non, vous étiez tout près, monsieur.
Avec les pliages.
Alors oui, donc...
Mais ça s'appelle un pop-up, c'est-à-dire c'est les livres qu'on ouvre et puis il y a toute une petite architecture en carton.
Non, justement, non. Ça, il n'y a rien qui sort, mais...
C'est un accordéon.
Exactement, je vais vous accorder la bonne réponse. C'est un livre en accordéon. Il se déplie comme un accordéon grâce à une technique particulière de pliage
et de
collage de ces pages. On appelle ça un Leporello ou livre accordéon, encore livre frise. Alors vous avez raison, certains, il y a des personnages qui se dresse en plus, mais ça, c'est un petit supplément, vous voyez.
Mais c'est dégueulasse de donner à ça un nom italien, parce que ceux qui ont inventé ça, ce sont les Mayas. Ils faisaient des grands livres comme ça.
Ah oui, alors que ça vient...
Yvette Horner était Mayas.
Moi, j'ai acheté la vie d'Yvette Horner en...
Leporello, en fait, c'est le nom du valet de Don Juan, qui présente à Donna Elvira la longue liste des conquêtes de son maître, la liste des conquêtes de Don Juan, et quand il ouvre ouvre la liste, elle est pliée en accordéon. Ah, vous voyez. On croit que c'est une petite liste et en fait, elle s'avère être très très longue. Oh. Et ce nom, évidemment, du valet de Don Juan, Leporello, a donné le nom à cette façon de plier les pages d'une longue liste ou d'un livre. Leporello. Excellente réponse collective. Non, parce que c'est pas dans le Don Juan de Molière. C'est dans le Don Giovanni de Mozart qu'on trouve le personnage de Leporello, le valet de Don Juan. Et alors, qu'est-ce qui sort en librairie sous forme de Leporello? C'est la tapisserie de Bayeux en deux volumes. Alors évidemment, le deuxième volume, on vous raconte tout sur la tapisserie de Bayeux, mais le premier volume, comme elle est très grande, la tapisserie de Bayeux, eh bien, il publie le tome et ça fait au total, c'est écoutez compliqué. Bien, parce que la tapisserie est à l'échelle quasiment.
Elle est à Bayeux.
Et c'est, ça donne presque une fresque de 32 mètres.
Ah oui, quand même. Ah oui.
Oh là là. Vous voyez, oui, ça se déplie vraiment.
Oui, alors peut-être que j'exagère un peu, mais enfin...
Peut-être, oui.
Mais en tout cas, ça s'appelle un Leporello. Une question pour Anne Fierob, qui habite Mandeur, dans le Doubs. C'est l'anniversaire des Schtroumpfs. Les Schtroumpfs ont 60 ans. Eh oui. Oh. Ah oui, on les
ils
a
sont plus jeunes que le prince Charles.
ils sont bleus. Ils ont du sang bleu aussi, les Schtroumpfs.
Oh, bravo.
Succès planétaire depuis 1958. Ma question va être toute simple hein, pour Madame Fierob, demandeur dans le Doubs. Comment s'appelle le premier album dans lequel on a vu apparaître les Schtroumpfs?
Ben, un album éponyme?
Non, justement, non. Non, parce que l'album n'était pas un album des Schtroumpfs.
Ah, Gargamel!
Non, 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 Gargamel est apparu après, lui. Gargamel, c'est le méchant dans les Schtroumpfs. Mais les Schtroumpfs, quand ils sont apparus pour la première fois, c'était pas dans un album des Schtroumpfs.
Ouais, il y avait Pirluit dedans.
Voilà, Johan et Pirluit, bravo. Ouais. Mais le titre de l'album, c'était quoi?
Les petites bêtes bleues?
Non, mais comment Johan et Pirluit rencontrent les Schtroumpfs?
Dans la forêt.
Oui, mais il y a.
Les champignons magiques.
Non, les champignons magiques, non.
À la forêt magique?
Non, ça va vous aider à trouver le titre. Alors, réfléchissez un peu.
Attendez, qu'est-ce qui va nous aider? La forêt?
Brocéliande?
Non, non, c'est pas une histoire de forêt.
Alors, une histoire de
champignons. Histoire de champignons, alors.
De champignons, non plus.
Une histoire de nature.
Alors, c'est des petits lutins bleus avec des bonnets blancs qui vivent dans un village de champignons et qui parlent le langage Schtroumpf. Hein, ils ont donc 60 ans, les Schtroumpfs. Mais comment ils apparaissent pour la première fois?
Ah, dans une BD qui s'appelait Le bonheur est dans le pré?
Oui, mais...
Non. Je me voulais encore dans cette affaire.
La Schtroumpfette était déjà là ou pas?
Alors, la Schtroumpfette n'était pas encore là.
Voilà. Ah, ils sont allés la choper dans une forêt.
Voilà.
Donc, elle est gâtée,
une
elle.
Une caverne dans une...
Il y a le mot enchanté dans le titre. Non
le Schtroumpf marin essaie de trouver, mais ce n'est pas enchanté, mais je vois. Alors écoutez, vous êtes sur une bonne piste, monsieur.
Magique. La rivière enchantée.
Non, non, non.
Il y a magique
non,
dedans.
Non, mais je vois pourquoi vous imaginez enchanté.
Il y a un truc là.
C'est pas la forêt qui serait enchantée.
Ah, le bois enchanté.
Non, pas le bois.
Merveilleux. L'arbre.
L'arbre, non.
Maison, le champignon.
Non, comment ils apparaissent, les petits Schtroumpfs?
J'ai jamais lu, moi.
À travers un miroir?
Réfléchissez.
Un miroir magique.
Ça va vous faire retrouver l'histoire et le titre de l'album qui est très connu.
C'est
plus.
Un rêve.
Non, non, non. Il y a Johan et il y a Pirluit. Bon, puis à un moment donné...
Ils sont sortis de l'imagination de deux personnages.
Oui.
Donc c'est à travers le miroir enchanteur...
Non, non. Qu'est-ce qui fait Pirluit? C'est grâce à Pirluit que les Schtroumpfs apparaissent.
Il crie.
Il crie pas, non.
Il chante.
Allez, on se rapproche.
Il chante.
On brûle.
Il chante.
Il souffle dans un corps.
Pardon ?
Il souffle dans un corps.
Ah, on avance.
Ah, il joue de la flûte.
Ah,
la flûte enchantresse ?
Non, la flûte.
La flûte.
La flûte est un adjectif.
Magique.
La flûte schtroumpfante.
Non, qu'est-ce qu'il y a dans une flûte ?
Ah, la flûte à trous.
Il y a des trous.
Ah, bravo.
La flûte à trous.
Combien ?
La flûte à bec.
À 6 trous.
La flûte à 6
trous.
À 7 trous.
À 7 trous.
À
6
trous.
À 7.
À 7. À 8 trous.
La flûte à 8 trous, son marteau, là.
À 5 trous.
À 6.
Oui. La flûte à 100 trous.
Il y a 25 à ma droite, là-bas.
Ah non. Bah, attends, Dorémy, face. Attends, Dorémy.
Je vais accorder la bonne réponse à Stevie Boulet.
C'est 7 trous, normalement.
La flûte à 6 trous ou la flûte à 6 schtroumpfs. C'est le titre de l'album. La flûte à 6 schtroumpfs, enfin. Ah ben oui,
c'est normal, il s'y connaît en flûte.
Il connaît aussi en trous.
Au départ, ça s'appelait un album donc de Johan et Pirluit qui s'appelait La flûte à 6 trous, puisque Pirluit jouait mal de la flûte, et c'est comme ça, un peu comme le célèbre personnage
du Pan.
Bah oui, c'est le qui avec les petits rats qui suivent le joueur de flûte. Ah. Et voilà, c'est pareil. Les petits schtroumpfs apparaissent de la même façon en suivant évidemment Pierre-Louis.
Ah, vous imitez bien le petit schtroumpf. Refaites.
D'accord. Je peux même vous faire la chanson. Un petit schtroumpf, 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 deux petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf, trois petits schtroumpfs, quatre petits schtroumpfs, cinq petits schtroumpfs, schtroumpf, schtroumpf.
Ça s'améliore, hein,
il
Olivier.
Il est peut-être temps de décider de faire un disque.
Il y a schtroumpf grincheux, il y a schtroumpf... Ouais. Ah non, ça c'est dans
moi,
les
nains. Moi, je suis joyeux.
Non, il y a un schtroumpf homosexuel.
Ah bon?
Ah oui, oui, ouais. Dans les schtroumpfs.
On ne me l'a jamais présenté.
Une question pour Maryse Mandon, qui habite en Haute-Vienne. En octobre 1888, cet accident ferroviaire survenu près d'une gare fit quand même, au niveau des morts et des blessés, je vais vous donner le chiffre exact, 21 tués et entre 12 et 33 blessés. Mais parmi les personnes blessées figurait une famille qui fut sauvée par le père de famille qui soutint sur ses épaules le toit effondré du wagon où il se trouvait, pendant que sa famille put ainsi s'échapper saine et sauve. De qui s'agit-il ?
Et c'était quand ça ?
Octobre 1888.
Et c'était en France ?
C'est Jean Valjean ?
Ce n'était pas Jean Valjean.
Parce qu'il était très fort, Jean Valjean.
Mais c'était pas Jean Valjean.
Mais un mec comme ça.
Mais c'était en France ?
Ce n'était pas en France.
C'était à Londres ?
Ce n'était pas à Londres.
Un haltérophile ?
L'enquête révéla que le train roulait trop vite, compte tenu du nombre très important de wagons, de voitures et de fourgons. 21 tués, une trentaine de blessés en Inde.
C'est non, Gandhi.
En Russie.
Et parmi lesquels une personnalité qui a réussi à sauver sa famille en soutenant sur ses épaules le toit effondré du
hyper
wagon.
Fort,
vous rendez compte un peu.
Ça se passait en Amérique.
En Amérique, non.
En Russie.
En Russie, oui.
C'est le tsar. Ah, c'est Rasputin.
Rasputin, non.
Stroganov, c'est comme ça qu'il a inventé le bœuf.
C'est le tsar.
Oui, alors c'est...
Alexandre.
Le tsar...
Nicolas.
Nicolas.
Nicolas II.
Pas Nicolas II.
Nicolas III. Nicolas III. Nicolas IV. Nicolas V. Nicolas, celui qui vend du vin.
Le prédécesseur de Nicolas II.
Alexandre.
Nicolas.
Alexandre.
Nicolas I.
Mais lequel ?
Trois.
Alexandre III.
On l'a dit.
Bonne réponse de Christina Cordula.
Pas rien, parce que je suis pas là pour répondre.
C'est une...
Oui, enfin, vous avez dit trois, et pas qu'on a dit Alexandre.
Elle s'y connaît en maths.
La famille impériale se rendait de Crimée à Saint-Pétersbourg, voyez-vous. Attention, il y a eu des conséquences pour l'empereur, hein, enfin pour le tsar, hein, l'empereur de Russie, puisqu'Alexandre III a souffert ensuite pendant des années d'insuffisance rénale attribuée à la violence du choc.
Ah oui.
Et il en est mort, vous voyez.
C'est pour ça qu'on a construit un pont.
Le pont Alexandre III.
Si qu'il a soutenu lui-même. Pendant les travaux ?
Non, mais c'est vrai qu'il aurait dû assister à l'inauguration et il est mort avant. Et c'est Nicolas II qui, au fond, finalement...
Il a récupéré le truc.
...a assisté à l'inauguration du pont Alexandre III, qui est dans l'actualité, puisque vous savez qu'en hommage aux soldats, une foule va se presser sur le pont Alexandre III. C'est une sorte de tradition pour rendre hommage, puisque c'est le pont qui mène jusqu'aux Invalides.
Vous notez, Laurent, que je ne vous ai pas fait le reproche, hein, puisqu'aujourd'hui, je suis très détendu, d'avoir appelé « wagon des voitures ». Puisque même en Russie en 1888, déjà, les endroits où se mettent les voyageurs ne sont pas des wagons. Les wagons, c'est pour les bestiaux. Les voyageurs vont dans des voitures. Voilà.
Bon, voilà, fallait le dire.
Je sens que ça va se marrer encore.
Oh là 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 là. Ça va changer notre journée, ça.
Ah non, mais professeur Rollin, j'ai dit des voitures et des fourgons, j'ai dit.
Non, vous avez dit des wagons.
Non, c'est dans les... Wow, les fourgons, c'est les bétails.
Alors, s'il vous plaît, la vidéo.
Oh, les mouches, elles ont mal aux fesses, là.
Thierry Villain habite Saint-Estève dans les Pyrénées-Orientales et il espère un chèque RTL lui aussi, puisque on nous annonce quand même dans la presse aujourd'hui que Vladimir Poutine et Xi Jinping vont participer par vidéoconférence...
À l'Eurovision.
Non.
À Miss Univers.
À une inauguration. Laquelle ?
Qu'est-ce qu'ils par vont... vidéoconférence.
C'est un truc qui se passe entre la Chine et la Russie.
Oui, qu'est-ce qu'ils vont inaugurer ?
Un pont, un tunnel.
C'est pas de d'encroûte aujourd'hui, c'est la...
Pardon ?
C'est ça ?
Non.
Ah, expliquez-moi.
C'est pas le... Il n'y a pas le concours mondial du pâté en croûte aujourd'hui ou demain, un truc comme ça ?
Ah, vous faites irruption, Sophie, là. On vous voit.
C'est pas comme François Rollin. Sachez que demain, mardi, je crois qu'il y a le grand truc mondial.
Alors, je ne veux pas vous décevoir. C'est aujourd'hui.
Et vous, et comme vous, quoi, c'est pas une connerie, ce que je dis.
Et vous venez de me griller ma dernière question.
Oh, merde.
S'il y a bien un truc que je pensais pas, c'est que le championnat du pâté en croûte intervienne entre Vladimir Poutine et Xi Jinping.
Mais on ne sait pas. Mais alors, moi, je suis Lorraine, alors je connais le pâté en croûte.
Aussi... L'inauguration d'un canal.
Il faut dire aussi non. Un pont. Je précise aussi pour un les tunnel. Auditeurs que quand il y a une nouvelle, Laurent lui souffle les réponses. Le problème, c'est que Sophie ne les a pas données dans le bon ordre.
Non, 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 mais je suis au courant du pâté en croûte. Je dis, je suis Lorraine comme Mimi.
Quand vous dites, je suis Lorraine comme Mimi, Michel Bernier, c'est ça? Vous voulez dire que vous êtes une quiche, vous aussi?
Non.
Pardon,
moi,
Michel.
Mais la différence entre elle et moi, c'est qu'il y en a une qui les bouffe.
Bon, alors.
Bon, alors, qu'est-ce qui... D'une ligne aérienne?
D'une ligne aérienne, non.
Ça concerne le transport?
Oh, le transport, oui. Je suis obligé.
Une fusée?
Je suis obligé de vous répondre oui.
Des satellites?
Des satellites, non.
C'est écologique?
Qu'est-ce qu'ils peuvent bien inaugurer?
Dans le ciel?
Dans le ciel, non. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien inaugurer aujourd'hui, Vladimir
Poutine? Un pont, un tunnel, un canal?
Un pont, un tunnel, un canal, non.
Un immeuble?
Une statue? Une statue?
Non, mais vous n'êtes pas loin.
Un avion?
Une route?
Une route, non.
Mais un monument, quoi. Un monument
une
mort.
Une ligne de chemin de fer.
Allez!
Un parking?
Un monument mort!
Une ligne de chemin de fer.
Un musée de Johnny Hallyday. Voilà.
Anne Hidalgo n'est pas contre.
Pardon.
Anne Hidalgo n'est pas contre la création d'un musée de Johnny Hallyday.
Ah oui?
Ah oui, elle a dit pourquoi pas. On voit qu'elle cherche les voix. Elle qu'a tant fait pour le rock'n'roll.
Mais là, c'est hors sujet ce qui était
bon, pardon.
On est en train de parler de Poutine.
Poutine.
Et Xi Jinping.
Non, Xi Jinping.
Oui, bah, c'est pareil, c'est 23 dans le menu.
Un stade.
Un stade. Non, mais vous étiez tout près.
Oui, bah, j'ai dit une statue, un monument aux morts. Un cimetière.
Une ligne aérienne.
Non, pas une ligne aérienne.
Enfin, c'est une ligne quelque chose. C'est
une ligne de train. Une ligne de train.
Pas une ligne de train.
C'est le transport.
Une ligne de coke. Une ligne de coke.
Mais
le quelque chose
un téléphérique.
Un téléphérique. Non, mais on est tout près.
Un fil à linge.
Enfin,
on est tout près. Une ligne près.
Bon, c'est de cet ordre-là.
Hein. Une frontière.
Une frontière, non.
Ah non, ça, oui, c'est un oléoduc.
Alors, pas un oléoduc.
Un gazoduc.
Un gazoduc. Bonne réponse de Gérard Junior.
Bah, dis donc, chérie, c'est trop fort avec
le gazoduc
réponses,
hein. Power of Siberia, force de Sibérie, plus de 2000 km de tuyaux qui vont, ces tuyaux, emmener du gaz de Russie jusqu'à...
Je savais pas qu'il avait des flatulences à ce point-là, Poutine, moi.
2000 km de tuyaux entre Poutine...
Ah, il faut en bouffer des haricots. Ouais.
C'est peut-être la solution pour relancer le cassoulet.
Et attention, la Chine va bientôt achever sa portion. Ce sera encore plus long pour que le gaz puisse aller jusqu'à Shanghai.
Oh, c'est génial. Hein.
C'était en tout cas une excellente réponse de notre ami Gérard Junior. Une petite... Qui a dit un bon raconteur d'histoire, c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire et qui espère que les autres n'en ont pas.
Ouais, c'est pas Pierre déjà?
Non.
L'amoureux?
Non, ce n'est pas
Jean-Yann.
Jean-Yann, non plus.
C'est quelqu'un de décédé?
Oui, quelqu'un.
Pierre Dac.
Qui est mort dans les années 70.
Francis Blanche?
Non, non, non. Quelqu'un qui racontait d'ailleurs des histoires, c'est vrai.
Jean Paredes?
Non.
Cabaret?
Oh, Jean Paredes, alors là,
oui,
il fallait s'en
souvenir. Jean Paredes.
Jean Paredes.
Oh la vache! Ça, c'est la génération de ceux qui ont regardé et bien racontent ou alors racontent à la télévision.
Attends,
dans
j'ai
les
aussi jeune. Jean-Marie Prolier?
Non, non. Ah, ça, c'est Norwich Union.
Et alors, c'est un humoriste qui faisait de la scène?
Oui.
Fernand Reynaud?
Non, Fernand Reynaud, non.
Jacques
Villeray, non.
Pierre Desproges.
Non plus.
Jean Le Poulain.
Non.
Jean Raymond.
Jean Raymond, non.
Il faisait du cabaret.
Il a fait du cabaret et du théâtre.
Est-ce qu'il était français?
Il était français. Né à Toul.
Celui qui faisait un petit bruit de bouche comme ça, non?
Jean Rigaud.
Oui, Jean Rigaud.
Eh bien non.
Roger Nicolas.
Roger Nicolas, bonne réponse de Bernard Mabille.
Ah oui.
Alors là, j'ai commencé avec lui.
Il fallait.
C'est vrai?
Mais non.
Effectivement.
Non, mais parce que moi, je suis son.
Ah, mais toi, ça m'étonne pas, mais moi, non.
Je suis son historiographe, je connais toute l'œuvre de Roger Nicolas.
Oh, ça m'étonnerait parce qu'il a eu une vie. C'est vrai que les jeunes.
C'est une grosse star.
Les jeunes ne peuvent pas connaître Roger Nicolas, qui était une vedette dans les années 50 et 60. Mais oui. Roger Nicolas, effectivement, était un raconteur d'histoires qui commençait d'ailleurs toujours ses histoires par.
Écoute, écoute.
Exactement. Écoute.
Et il chantait aussi. On m'appelle Baratin et ça me va très bien.
Exact. Alors. Baratin, c'était le nom d'une pièce qu'il a jouée avec Jacky Sardou à l'époque.
Bien sûr.
Plus de 1000 représentations au théâtre de l'Européen en 1952, Pierre Bénichou.
J'aurais dû l'être avant.
Il a joué Seul les tilleuls mentent, je crois.
Avec Pierre Doris, exact. Ah. Seul les tilleuls mentent, c'est un peu plus tard dans les années 60.
À l'Européen.
Mais
aussi.
Il l'avait vu en avant-première en tant qu'ami.
Et c'est le seul qui s'est fait construire un théâtre pour lui.
Ah ouais.
Et c'est le théâtre qui est boulevard de Clichy.
L'Européen.
L'Européen.
Le théâtre de l'Européen.
Et il avait une Cadillac décapotable couleur fraise et il se baladait et il emballait avec ça. Il avait un chapeau sur la tête. Et des cheveux blonds à la Johnny Hallyday.
Ah oui, oui.
Il était très
sympathique. Il n'était pas ringard du tout.
Et alors, c'était un survivant, il faut le savoir, parce qu'il était agent de l'intelligence service et il aurait dû être fusillé, Roger Nicolas, le 23 janvier 1943. Mais l'officier chargé de conduire le peloton d'exécution avait été soudoyé et avait chargé de balles à blanc les armes du peloton. Il a quand même été étourdi par le choc pendant quelques heures parce qu'il a cru mourir. Il s'est relevé et il a gardé depuis, enfin jusqu'à sa mort, une bonne humeur constante.
Ah oui. Incroyable.
Des
simétones. Ah oui. Miraculé comme ça. C'est
incroyable quand même.
Écoute, je suis en vie.
Non, mais vous imaginez un peu le type qui se fait fusiller et qui croit mourir et on lui dit après c'était des balles à blanc, vous êtes vivant. Vous.
Incroyable. Quand même,
c'est une belle histoire.
Ah bah, y a pas mieux que
ça. Ouais. Alors qu'il s'attendait à des balles à dur.
Oh Bernard! Bernard, en première partie de Roger Nicolas!
C'est l'école Nicolas!
Une question pour Jacqueline Dupron, qui habite Bienville, c'est dans l'Oise. En 1945, elle a dit non. En 1946, elle a dit non. Au début des années 1950, elle a encore dit non. Ça a duré pas loin de 17 ans.
Oh, bah oui.
C'est en 1959 qu'elle a enfin dit oui. Mais de qui s'agit-il ?
C'est la poupée de Polnareff.
Ah non.
Une constitution ?
Non plus.
C'est une femme ?
C'est une Française ?
C'est une femme. Une Française, non.
Une Américaine ?
Alors une Américaine, non. Elle était britannique.
Parce que les mecs n'étaient pas assez riches pour elle ?
Non.
Est-ce qu'elle dit non, elle a refusé un rôle ?
Refusé un rôle ? Non.
De se marier.
C'est pas la reine, il n'y a pas d'histoire
pas la
de
reine. En 45, elle dit non.
Ça a rapport avec un métier ?
Du tout. En 46, elle dit non. En 50, elle dit non. Ça dure 17 ans. Et enfin, en 59, elle finit par dire oui.
À un mariage,
ah, c'est
à
des
un
Didi.
Homme.
Est-ce que tu veux faire un tour en Mercedes ? Non.
Est-ce qu'elle dit oui ?
C'est pas en 59, monsieur Mabie. Oh, bah,
ce serait pas une vite, poupée hein. qui parle.
Non.
Mais est-ce que c'est à un homme qu'elle...
Ah, c'est à un homme et pas des moins célèbres.
Et elle l'a épousé après.
Ah non.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, non.
Non.
La femme en question s'appelle Pamela Lyndon Travers.
Pauvre femme.
La rue.
Est-ce qu'elle a trouvé du boulot?
Travers.
Pamela Lyndon Travers, oui, je vous aide, a dit non en 45, en 46, en 50, pendant 17 ans, jusqu'à ce qu'elle dise oui.
Elle a dit non à un rôle.
Un rôle, non.
À un homme.
À un mariage.
À un homme, oui.
Et un gars comme Elvis, par exemple.
Ah non, mais elle n'a pas dit non pour un mariage. Oh, mais c'est un homme qu'elle a dit non.
Pour des droits.
Pour des droits, oui. Monsieur.
Voilà.
Marguerite Yourcenar.
Pour Marie
c'est Agatha Christie.
Mais enfin, Daniel. Est-ce que vous réfléchissez à ce que vous dites ? Je viens de vous donner le nom de la dame en question.
Ah, mais je crois que je sais, Laurent.
Qui dit non.
Oui, ouais.
Pamela Lyndon Travers.
Travers, oui.
Pourquoi vous me répondez Marguerite Yourcenar ?
C'est la traduction.
Ah oui. Alors,
je pense que Florian
c'est la
bonne
dame, traduit.
Elle a écrit Mary Poppins.
Pardon.
Elle a écrit Mary Poppins. Elle a dû refuser de donner les droits à Disney pendant toutes ces années.
Wow. Bonne réponse de Florian Gazan.
C'est un peu mis sur la voie quand même.
Et d'ailleurs, il y a eu un film avec Emma Thompson et je sais plus qui là-dessus.
Toi, tu croyais vraiment que c'était Oscar Wilde hein?
Ben, j'ai pensé que c'était Oscar Wilde.
Ouais, il est mort en 1900.
Oui.
C'est bien.
Oh putain, mais c'est pas vrai, mais non. Et le mec qui a plus aucune mémoire de rien, il connaît juste la date de la mort d'Oscar Wilde.
Entre juste
et je tombe dessus, dis donc.
Et 59
Non, mais t'as raison, Pierre, c'est sûr.
C'est pour rire, t'as
dit. Mais je sais bien.
C'est coupé,
vous n'allez pas vous fâcher. Ah, ah bah non, ça ne sera pas coupé. Toutes les occasions de rendre Bernard ridicule sont...
On sort un album, d'ailleurs.
Mais vous savez qu'à cause de vous, je vais vous dire un truc...
Votre popularité grimpe.
Mais oui.
Oui, ça c'est sûr, mais ça je vous en remercie.
Il y a que ça qui peut grimper chez toi.
Mais on m'envoie que des rôles d'andouille.
C'est pas vrai.
De gros cons, je te jure. Hein.
Mais je suis sûre que ça te fait du chagrin, là.
Non, pas du tout, non.
Ah, moi je croyais.
En même temps, t'avais déjà reçu des offres de jeunes premiers.
Bah, il y a longtemps.
Ah, bonne question.
C'est là où le mot en même temps prend toute sa vulgarité.
Pamela Lyndon Travers, effectivement, a écrit, c'était une romancière, elle a écrit Mary Poppins. Hein, il y a, je crois, au départ, 8 tomes de Mary Poppins, 8 histoires. Et très vite, Walt Disney, parce que je crois que c'est sa fille qui était en train de lire un des romans, il a vu que sa fille était en train de rire en lisant Mary Poppins. Il s'est dit, il faut absolument rencontrer cette femme, Pamela Lyndon Travers. Ils lui ont proposé 100, non, pas 100 au départ, seulement 10 000 $. Elle a dit non. Là, on est en 45. Ils ont réessayé tous les ans et continué à dire non jusqu'à ce qu'elle obtienne beaucoup, beaucoup plus. 750 000 $,
bah, elle a raison,
plus 5% des recettes du film. Et oui, pendant toutes ces années, elle a bien fait de reculer l'échéance.
Ah bah ouais.
Et en 1959, elle a fini par dire oui. Et à une condition aussi, c'est qu'elle puisse choisir l'actrice qui jouerait Mary Poppins. Et elle a choisi, vous le savez, Julie Andrews. Ce n'est d'ailleurs pas un remake qui sort aujourd'hui sur les écrans. C'est d'autres histoires de Mary Poppins. Mais cette fois, c'est Emily Blunt qui joue la fameuse nounou des enfants Banks. Les enfants Banks.
Les enfants des enfants.
Qui sont devenus adultes.
Ils ont grandi, voilà. Donc c'est les enfants des enfants et les enfants. C'est la suite.
Vous irez, Valérie Mérès. Hein,
ah oui, ça c'est sûr.
Ah, oui.
Elle a toujours son parapluie.
Ah bah oui, elle a toujours son parapluie. Oui,
elle a un gilet jaune maintenant.
Il n'y a qu'un truc qui manque, c'est la... Le truc qui manque, c'est la chanson fétiche.
Supercalifragilisticexpialidocieux, ah oui. Ce mot est un vrai calvaire pour les pas les amours. Mais si vous le dites d'un tout, vous devenez prodigieux. Supercalifragilisticexpialidocieux, humblibidi humbliban, que vous soyez étrangère, vicomtesse ou douairière, Marie Chantal ou Gigi, la fille la pâtissière, le monde.
Bravo.
Ah, je bloque les paroles.
C'est déjà pas mal, hein.
Bravo, Valérie.
Bravo.
Ah ouais, c'est dur.
Une question pour Éric Morin, qui habite Vertou en Loire-Atlantique. Si on vous sert des animaux, de quoi s'agit-il ?
Du beurre ?
Du beurre, non.
De la viande, de la viande.
Alors, c'est de la viande, oui, mais quelle
viande ? Coupé très fin.
Coupé très fin, ça dépend qui coupe, mais les animaux, c'est quelque chose de bien précis.
C'est du poulet ?
Du poulet, non.
Celles du taureau sont très connues ?
C'est vrai que les animaux, ça peut venir du taureau. C'est donc
Les testicules.
Ce sont les testicules. Mais alors, généralement, les animaux, c'est pas des testicules de taureau, c'est...
Ça serait pas mes couilles.
C'est le rythme.
Le sexe.
Monsieur Benichou.
Le sexe.
Non, parce que je commence à avoir peur, là.
Monsieur Benichou. Non, mais en même temps, Pierre a compris. Il s'agit bien de testicules, ça, vous avez trouvé.
Ah oui.
Mais pas de taureau. Alors, c'est plutôt des testicules de
bœuf,
de
d'agneau.
Pas d'agneau,
de veau.
De mouton.
De bouc.
De bouc.
De bélier.
De bélier.
Des testicules de bélier. On peut aussi le dire pour les taureaux, hein, mais généralement, quand on vous sert des animaux, ce sont des rognons blancs, des amourettes aussi, on appelle ça.
Ah oui.
Et ce sont des testicules de jeunes béliers. Et bonne réponse de Pierre Bénichou.
Oh, allez, encore.
Non, c'est moi.
Mais tu n'as pas honte de vouloir voler les réponses de ton camarade.
C'est moi qui l'ai dit. Quand je dis testicule, Marcella entend.
Mais bien sûr.
Laurent a dit Pierre Bénichou, il a dit Pierre Bénichou.
On va pas se battre pour une paire de couilles, là, écoutez.
Il n'y a qu'une belle paire de couilles.
Les rognons blancs, les amourettes, les animaux sont en effet, en tout cas, des testicules, généralement de bélier ou même de véra, des gros cochons.
Ah, de véra, les gros cochons.
Voilà. Et alors,
de véra.
Pour les manger, il faut évidemment les peler. En général, on les trempe dans de l'eau froide pendant 2 à 3...
C'est assez... Moi, je le fais souvent aussi. Ça fait durer longtemps.
On les trempe dans de l'eau froide pendant 2 à 3 heures avant la préparation.
Oui, ouais, moi, d'avant,
parce que pour une heure, tu fais... Pour les dégorger, évidemment.
Ah non.
Ah bah oui, il faut les dégorger. C'était en vogue autrefois en France, en Espagne, au Portugal ou même en Italie. Ah, donc, mais oui, on en mange beaucoup moins depuis la vache folle des animaux. Mais aux États-Unis, en revanche, il y a une recette italienne très connue qui s'appelle lamb fries, qui fait qu'on continue à manger des animaux. Mais bon, évidemment, on n'appelle pas ça ainsi là-bas en Amérique. Les animaux qu'on peut consommer aussi, alors sous le nom de testicules de sanglier ou de buffle, et qui s'appelle les Rocky Mountain Oysters, les huîtres des montagnes rocheuses. Alors, il faut les faire mariner dans du vinaigre d'estragon, vous voyez, avec un peu de persil, du
d'olive. J'ai pas le temps, moi, quand je rentre du boulot, à faire trouver son vinaigre d'estragon, faire mariner mes trucs. Les gosses, ils veulent des pâtes, ils ont des pâtes. Je vais les habituer à manger 3 étoiles, les gosses. Hein ?
Je vous donne la recette de vos couilles de bélier. Une recette française.
Oh là, matin, t'es animateur de B2, là. Hein.
Les animaux sont marinés dans du vinaigre d'estragon, d'herbe, d'oignons hachés pendant 1 heure. Hein.
Ah, ça, c'est les juifs, ça, oignons hachés.
Vous hachez pas l'oignon pendant 1 heure.
Non.
Vous mettez l'oignon haché dans la marinade.
Si tu le fais mariner les testicules et hacher l'oignon, dis donc, quelle journée!
Ça peut être sympa pour un client en amoureux.
On vous a mariné les testicules? C'est... On vient me finir l'oignon, oui.
C'est une recette romantique, ça, Laurent.
Monsieur Bénichou.
Je vais te faire des testicules, le bélier.
Ça doit avoir aucun goût,
Ça finit jamais, cette émission.
Ensuite, les animaux sont égouttés.
Ah oui, il faut toujours égoutter l'animal.
Arrosés avec du jus de citron.
Oh là, ça fait mal. Ça.
Farinés.
Oh là là.
Et frites dans du beurre. Et vous pouvez les servir garnis de persil. Voilà, vous avez la recette.
Ah, ça va être un bon dîner.
La recette des animaux. C'était une bonne réponse du couple Lambron-Bénichou. Ah. Il y en a 700 à 800 qui ferment en France chaque année. De quoi s'agit-il?
Des bordels.
Des commerces?
Alors, il s'agit d'un commerce, oui, mais quel genre de commerce?
Cordonnier?
Les épiceries?
L'épicerie, non. Cordonnier, non.
Serrurier?
Heureusement, dans...
Salon UV?
Non.
Non, les cigarettes électroniques?
Non.
Heureusement, qui ferment.
Heureusement, dans le Tarn, à Vabre, ils ont réussi à sauver ce commerce.
Le bar,
non.
Boucherie-Chevaline?
Pardon?
Boucherie-Chevaline?
Oh, Boucherie-Chevaline, écoutez.
Des vidéoclubs?
Il n'y en a pas 700 à 800 d'ouverts en France, donc il n'y en a pas 700. 100 à 800 qui ferment.
Vidéoclub.
Non, il y a un moment qu'ils sont fermés, les vidéoclubs.
Les librairies.
Alors, librairies.
Ésotériques.
Papeterie.
Marchands de journaux.
Presse.
Les marchands de journaux, la presse. Bonne réponse de Mela Bédia et Philippe Manœuvre. 700 à 800 marchands de journaux, de presse.
C'est avec les applis maintenant.
Qui ferment en France chaque année. Ben oui, parce que plus ça va, plus les jeunes, évidemment, lisent sur leur tablette les informations.
Alors, on est écolo, nous, comparé à eux.
Oh bah écolo.
Bah ouais, mais faut faire le téléphone. Hein. Je sais pas si c'est vraiment plus écolo au final que du papier. De
une recherche sur internet, il paraît que ça consomme une électricité incroyable.
Dingue. Ah ouais.
Mais après c'est normal, ça évolue quoi. C'est comme Kodak qui se tu vois. Qu'on pas cru au
nucléaire. Oui, on se rappelle les stations photo avant, on allait développer nos photos. Ouais.
Et du coup, le mec avait vu tes photos d'ailleurs.
Ouais, de ouf.
C'est ça qui était gênant. C'est que pour les développer, il était obligé de les regarder.
Mais à Paris, il y a moins de kiosques à journaux aussi. Hein. C'est un peu triste.
C'est vrai. Il y a un marchand de journaux près de chez vous?
Oui, j'en ai un. Mais j'achète pas mes journaux. Moi, je lis sur l'ordinateur. J'ai plutôt la maison de la presse pour les hors-séries ou les cartes postales ou les magnettes aussi.
À qui vous envoyez des cartes postales?
J'envoie des cartes postales à la plupart de mes amis. Christine. J'ai envoyé une carte postale à Madame Bravo, il n'y a pas très
Christine
longtemps.
Bravo.
Mais avant son décès ou après?
c'est un peu désuet, mais je trouve ça bien.
Vous lui avez envoyé une carte postale d'où?
J'ai envoyé une carte postale douce, j'étais dans le...
Dans le Doubs?
Non, j'étais pas dans le Doubs, j'étais en Bretagne, dans un petit patelin qui était Port-Blanc.
Ah oui?
Voilà.
Et elle vous répond et tout?
Non, parce qu'elle m'avait envoyé une carte d'Australie, elle était en Australie à l'époque, et du coup elle m'avait envoyé une carte et je lui avais répondu chez elle à Paris, Port-Blanc, enfin voilà, de Port-Blanc, enfin rien de très exceptionnel. Mais j'adore envoyer des cartes comme j'adore écrire aussi.
Ah oui.
Je suis quelqu'un qui aime bien écrire sur du papier, je suis pas vraiment... feuilles papier, etc. Parce que j'aime la calligraphie, en fait. C'est grave, mais j'ai appris à écrire comme Rimbaud.
Mais non. C'est tout, modestement.
Et en ce moment, tu as mal vers l'aine.
Je vous jure que c'est vrai, quand j'étais gamin, j'étais passionné par le dessin, la calligraphie, l'écriture, etc. Et en fait, maman...
Ça a dû la surprendre, hein, Christine Bravo, de recevoir une carte postale de Rimbaud.
Et ouais. Ma mère, elle m'avait acheté le livre avec toutes les lettres ou les écritures de Rimbaud, mais écrites de sa main. Et du coup, les dés, etc., j'ai vraiment appris à écrire.
Pourquoi vous vous marrez
comme Rimbaud.
Ben, je me dis, tout ça, sa mère, la pauvre, elle s'est dit, ouais, il va y avoir une vraie mot qu'il a fini dans le loft.
Je suis content d'avoir été dans le loft.
Une question pour Jean-Luc Angers, qui habite Montreuil-Bellès et dans le Maine-et-Loire. Vous avez sûrement entendu, ça court sur toutes les radios, dans tous les journaux depuis hier, l'histoire de ce renard qui a été tué par des poules.
Hein? Eh oui. Quelle horreur.
Ça se passe sur...
Oh vraiment, ce renard qui a été tué par...
Eh oui, ça se passe à Groschen de Pontivy.
Ah ouais,
il y a 6000 poules dans la ferme de ce lycée.
Qu'on bouffait le renard.
6000 poules.
6000 contre renard. Quand tu commences à avoir 6000 poules qui tombent dessus,
c'est beaucoup,
tu
hein.
fais pas trop le mariole.
Même moi, franchement, malin, hein.
Le renard a dû rentrer en cours de nuit, vous voyez, par un des portillons d'accès de l'élevage de poules pondeuses.
Ils ont sauté dessus.
Et l'animal a dû. Alors, évidemment, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On a retrouvé le renard mort au petit matin, vous voyez.
Ils ne l'ont pas mangé ?
Alors, non, écrasé, non, il a été cerné, il a été tué dans un coin du bâtiment par 3000 poules, parce qu'il n'y avait pas les 6000 dans ce bâtiment.
Mais 3000 regardaient et 3000 le tuaient.
Et voilà. Et en plus, il n'avait que 5 ou 6 mois. Le renard, c'était un renardo, hein, vous voyez.
Oh. Un petit renardo.
Un renardo. Oui. 60
centimètres. Fais un petit fond sonore comme ça qui va
être ouais, hein, Laurent.
Mais chicken run, le truc.
Alors vous allez me demander, mais alors quelle est
la question? Parce que là, on cerne mal la question.
Quel est le prénom du renard? Comment s'appelait les 3000 poules?
Non, mais le prénom des 3000 poules.
Eh bien, il est 18h.
Marceline.
Bah non, mais évidemment, ça vous fait penser à quoi, cette histoire que je vous raconte?
La poule.
Au corbeau et au renard.
Bah oui, donc aux fables de la fontaine.
Ouais.
Évidemment. Et alors, j'ai fait des recherches pour savoir combien de fables il y avait avec un renard. Voilà. Parce qu'on connaît tous, évidemment, le corbeau et le renard. Mais ce n'est pas la seule fable. Il y a 20 fables de La Fontaine avec le renard. Alors, je ne vais pas vous demander les 20 fables, évidemment. Mais il y a le chat et le renard.
Le renard et la belette.
Le coq et le renard. Le corbeau et le renard, je vous l'ai dit. Le chat, le renard et la belette.
Ah, vous avez le chat avec.
Bravo, Muriel. Il y a aussi le fermier, le chien et le renard.
Le renard tapis.
Le loup et le renard, le lion, le loup et le renard, le renard anglais, le renard ayant la queue coupée, le renard et la cigogne, le renard et les poulets d'Inde, le renard
la question, Laurent,
et les raisins.
Pas, bon, là, j'ai envie de réciter
les poulets d'Inde.
Après, le renard, le seul.
Ce sont des missions, après tout, attends.
Il est content, il a envie de dire ses vins.
J'ai appris que La Fontaine avait pas mal
volé
des fables. Ouais. À quelqu'un de l'Antiquité.
À Ésope.
Ouais. Ésope.
Mais il le cite régulièrement.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'il s'est fait plus connaître qu'Ésope pour ses fables, même s'il les a empruntées à Ésope pour la plupart, ça c'est vrai.
D'où l'expression Ésope, je t'ai piqué une blague. Oui, je fais dans la.
Mais ça tombe bien, faites bien de dire ça, monsieur.
Oui, parce que ça va être la question.
Monsieur Palmade, parce que justement. Ésope est cité dans la fable dont je ne vous ai pas encore donné l'animal.
Je le sentais.
Le rhinocéros.
Qui va avec le renard. Il y avait aussi le renard, les mouches et le hérisson, le renard et les raisins, le renard, le singe et les animaux, le renard et la cigogne. Et il en manque une.
Oui,
est-ce que c'est avec un animal?
Une fable qui ne fut imprimée pour la première fois qu'en 1861 et c'est aussi avec un animal.
Un seul ou plusieurs?
Un seul, le renard et...
Et le ou
la? Le popotame.
Non.
Le ou là, ou les...
Le.
Et la pie.
Enfin, je dirais même...
L'apostrophe. Le renard et...
L'épervier.
La fin de la fable. L'aigle.
Je peux vous donner le début de la fable.
Ouais.
Oui.
Il ne faut jamais se moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, vous voyez,
Ésope, dans ses fables,
nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point, et certaines chroniques m'en fournissent un plus authentique. Le renard se moquait un jour de... De qui?
Alors, de l'écureuil.
L'écureuil. Bonne réponse.
Excusez-moi.
Parce qu'il a la caisse d'épargne.
Dès qu'on parle un peu de culture, mes bah beaux-parents oui. sont là,
c'est
obligé de briller.
Pardon que dans l'écureuil, il y a cul, alors... Oui.
Dès qu'on se demande pourquoi tu l'as trouvé bah aussi facilement.
Normalement, c'était pas le renard et la biche. Voilà.
Mais qui connaît, alors, à part le renard et le corbeau, une fable de La Fontaine dans laquelle le renard...
Moi, je connais. Je
Allez-y,
crois.
Alors, Ariel, alors, elle va nous l'inventer.
Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient touchés. On n'en voyait point d'occupés. Voilà, jusque-là.
Et où est le renard, là-dedans ?
Il est là-dedans, parmi oui, tous les animaux de la Terre.
Mais oui !
Il arrive après.
Bien sûr ! Puisque c'est les animaux tous atteints par la peste.
Alors, j'ai attendu... On a eu des gens de mauvaise foi dans cette
histoire. Oui, parce que moi aussi, j'en ai un poème, j'en ai une fable.
Vas-y.
J'allais un jour vers ma basse cour. Voilà, toute la basse cour, il y a tout le monde, il y a le renard, il y a tout le monde.
Ouais, moi j'en ai ici avec un renard. Ah, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un renard et qui m'aime et que j'aime et qui dit tout à fait le même et tout à fait une autre et même me comprend.
Ah, voyez, alors voilà. De qui est ce vers complètement maltraité par Jean-Phi ? Il est de Verlaine.
C'est Verlaine,
voilà.
Et vous n'avez pas un petit poème avec un renard, monsieur Semoun ?
J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Jules Renard.
Oh voilà. Très joli, bravo.
Pierre, vous avez un truc avec un renard.
Renard, Pierre.
Un renard. Maître Corbeau, vas-y.
Oui, un renard passé par là. Je lui dis, mais qui va là ?
Dit le corps.
il me dit, tiens, comme il fait beau.
Oui.
Je m'en allais voir le corbeau.
Ah, ben voilà, ça c'est le renard et le palmade.
Le corbeau, oh, pas mal.
Et vous, monsieur Plaza ?
Ben moi j'ai trouvé la bonne réponse, je peux pas être partout quand même.